truc qui s'arrête jamais. Ça y est, c'était long. Comment ça va, vous? Un ou deux petits réglages et puis on est parti pour la matinée Étienne, on va lire les journaux ensemble. Double stream aujourd'hui puisque l'hebdo Étienne vous retrouve ce soir à 20h avec quatre magnifiques invités dans la salle à manger que je privatise. Comment ça va? Vous, comment ça va? Lily Plu, merci pour ce 17e mois d'abonnement, merci pour ce soutien. Tu deviens grande, c'est gentil. Merci beaucoup de ce sub de bon matin. Enfin bon, bon matin à 9h45. Mais il a fallu que le réveil sonne un petit peu tôt quand même ce matin pour lire les journaux. On devrait avoir des choses assez intéressantes d'ailleurs. Je pense vous allez voir ça dans un instant. Masso67, merci pour le 8e mois. Comment ça va vous? Petit café? Bien, 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 bien. Content d'avoir repris France Info hier. Ce matin, grasse matinée, réveil vers 5h. Petite lecture du Parisien, de Libération, du Monde, des Échos, de l'Opinion, de quoi d'autre, du Figaro, de l'UMA, voilà. Je vous ai pas tout mis de côté parce que je lis tous les journaux le matin pour vous, histoire d'être sûr d'avoir tout vu, mais c'est, voilà. Mais je vous lis pas tous les articles de tous les journaux, un d'abord parce que tout n'est pas forcément super intéressant, selon mon goût très 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 subjectif, ça n'engage que moi, et ensuite parce que le stream durait 3 jours. Et il va durer maximum 3 heures. Voilà. Donc je vais tout mettre de côté et puis on lit pas l'équipe en ce moment. Voilà. On ne lit pas l'équipe en ce moment. Non. C'est fini. Je ne lis plus le quotidien sportif de référence. Non, c'est fini. Merci docteur Lexforce pour ce 18e mois d'abonnement. Merci docteur Vanel. Il y a beaucoup de docteurs dans le chat pour ce 16e mois. Merci Jean-Sébastien pour ce prime. C'est fini l'équipe. Fini, 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 fini. Je n'arrive plus à le télécharger. Je pense qu'il y a eu un... Alors, ou un bug dans la matrice. Il y a Twipen qui a lancé son grand ménage du matin, c'est trop mignon. Ou il y a un bug dans la matrice, ou j'ai pas pris la bonne pilule, ou l'appli a évolué, celle qui me permet de télécharger, d'acheter l'équipe le matin. Et depuis 2 jours, je n'arrive pas à télécharger l'équipe. Bon, ben, il règle ça. Hein. Moi, mon iPad, il fonctionne très très bien. Je télécharge tous les journaux sauf l'équipe. Donc, je leur laisse régler le truc. Il y a Nicosa qui pense que l'équipe m'a peut-être ban en fait. Bravo Alexandal qui a eu son concours, félicitations. Donc tant que j'arrive pas à télécharger l'équipe, bah j'arrive pas à télécharger l'équipe quoi. Voilà, bon, voilà, voilà, c'est tout. Voilà. Non, je suis pas fâché avec l'équipe du tout. Allez, je vous lis un petit peu, on y va. Super Ben 02, merci pour ce 2e mois d'abonnement. Je parle pas très très fort, j'ai les poumons un peu irrités par les. Par les pollens, mais quelle saloperie! Pollen, pollution. Je suis pas le seul à tousser, hein. Ça tousse beaucoup en ce moment, autour de moi, au travail, à la maison. Ça tousse, vous? Vous toussez ou pas, vous? Ça tousse? Vous les sentez, les pollens, là, ou pas? Ah, les gaz lacrymaux, peut-être, ouais. Ouais. Par les gaz lacrymaux, car tu es un homme de terrain, me dit Pova, qui fait mine d'ignorer que je passe ma journée dans. Une chambre à lire la presse écrite. Ça pique un peu? Oui, vous me parlez surtout des fumigènes et des lacrymogènes. Ok, je vois que vous êtes chaud sur l'actu. Ok, il y a Rajeberry qui me dit qu'il a fait ou elle a fait une désensibilisation. J'ai plus aucun souci. Peut-être faire ça moi. Ouais. Peut-être faire ça aussi. Ouais. Non, les pollens, vous, ça va? Ça va? Ça va? Ok, vous êtes à fond sur les gaz lacrymogènes. Ok. Oui, ah, merci. Enfin, les gens qui partagent ma peine. Good Heart Cinnamon, oui, très fort et très tôt cette année. Ok, d'accord, ok. Jean-Sébastien. Très bien, j'ai envie de commencer par ça. Jean-Sébastien, j'ai envie de commencer par ça. Jean-Sébastien, vous savez quoi? Avant de faire quoi que ce soit, de lire les journaux, de parler de l'hebdo Étienne, on va parler de cette histoire de montre. Jean-Sébastien nous lance là-dessus dans le chat. Est-ce qu'on peut parler de la montre qui disparaît lors des interviews présidentielles? Ouais, on va parler de ça. Parce que moi aussi j'ai vu ça, et moi aussi ça m'a choqué. Et puis j'y suis allé mon petit coup de gueule en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais quel comportement? Faire disparaître une montre, sa montre, juste avant de parler des smicards, qu'est-ce que c'est choquant ?» Et puis ce matin je me suis calmé. Je me suis calmé parce qu'entre-temps, j'ai vu un travail de debunk d'un journaliste que je connais bien et qui m'a montré que mon indignation, elle avait été un peu rapide, trop rapide. Il ne faut jamais se presser en termes d'actu et d'analyse de l'actu et que j'étais peut-être à côté de la plaque. Donc on va en parler. L'histoire de la montre. Tenez, on va se la mettre. Voilà. Tchac. Voyons ce que ça donne sur les réseaux sociaux. Alors là, vous avez quoi? Vous avez rien, c'est normal. Hop, là, vous avez Twitter. Là, vous avez un des comptes qui a relayé cette séquence. Voilà. On lit. Raté ce moment où Emmanuel Macron, le président des riches, écrit cet internaute, se rend compte qu'il porte une montre de 80 000 euros pendant qu'il tape sur les gens au RSA et l'enlève discrètement. C'était juste, je crois, avant qu'il parte des smicards. Donc, on regarde la séquence, ok, d'accord. Bon, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, ou s'ils l'ont tous vu, ça donne ça. La montre, elle est là. La montre, elle est là. Il y a un petit doigt rouge qui montre que la montre est là. Ok, c'était l'interview du président sur TF1 et France 2 après le 49-3. La montre est toujours là. La montre est toujours là. La montre est toujours. Oh, il met les mains sous la table. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Il tripote quelque chose. Il enlève quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. De pas net. La main revient. Elle n'a plus de montre. Il n'y a plus de montre au poignet. Oh, la petite main rouge va revenir peut-être pour dire qu'il n'y a plus de montre. Tintintin. Moi je vois ça sur les réseaux sociaux. Je vois cette vidéo et je fais ah oh, putain sérieux quoi. Le gars il a une montre de fou. À un moment il se rend compte qu'il parle, qu'il va parler des Français qui sont le plus dans le besoin. On va parler du RSA, on va parler. Il va parler des smicards. C'est un terme qui lui a été reproché. Et donc vraiment j'en parle même. Hier j'étais invité à l'anniversaire d'un copain qui travaillait à la télé. Et en fait, je suis choqué, quoi. Voilà. Et puis, ce matin, je continue à scroller, voilà, puisque, je ne fouille pas. Erreur de Papy Sam. Je ne fouille pas, je ne gratte pas, je ne recherche pas le contexte de cette info, etc. Et, tout, voilà. Et puis, je tombe sur le compte de mon ami Julien Pain, voilà, qui est le patron, pardon, le mot patron n'est pas très joli, le rédacteur en chef de l'émission Vrai ou Fake sur France Info, qui est un journaliste spécialisé dans le debunk de la vérification des infos. C'est super parce qu'il se fait déchirer par tout le monde, les anti-vax, les pros russes, les pros Poutine, tout le monde le déteste. Je sais pas comment il supporte sa vie au quotidien sur les réseaux sociaux, il a beaucoup de courage. Et donc je tombe sur un tweet de Julien ce matin, parce qu'en fait il a été interpellé par plein de gens qui le suivent, voilà, qui lui ont demandé mais de quoi il retournait de cette histoire de montre à 80 000 euros hein, qu'enlève Emmanuel Macron pendant l'interview. Alors ils sont allés vérifier. Alors la montre, elle ne coûte pas 80 000 euros, elle coûte 2 000 euros. Alors c'est une belle montre, tout le monde n'a pas une montre à 2 000 euros. Mais déjà, c'est pas la même chose. Donc c'est de l'info, donc on est carré. Mais ce qui est choquant, on est d'accord, c'est plutôt le fait, à un moment, d'enlever une montre qui serait une montre de luxe, parce qu'à un moment, il va parler des Français les plus pauvres. C'est ça qui est choquant. Alors, on continue à lire. Ensuite, son entourage affirme qu'il l'a enlevée parce qu'elle faisait du bruit en cognant sur sa table. Et ils sont allés vérifier, ils sont allés écouter, effectivement. Effectivement, on entend le claquement pendant l'ITV de la montre qui tape sur la table, quoi. Voilà. Julien, qui connaît bien la télé, qui fait des plateaux depuis très longtemps, précise qu'il arrive souvent qu'on demande aux gens, aux invités, d'enlever des bagues ou des bracelets pendant les interviews. C'est vrai. Combien de fois j'ai eu... des invités qui avaient oublié d'enlever une montre ou un bracelet, et entendant la régie et l'ingénieur son me crier dans l'oreille « Oh là 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 là, on ne comprend rien avec sa montre et son bracelet. » Voilà. Donc, la montre ne vaut pas 80 000 euros, elle vaut 2 000 euros. Et puis à un moment, a priori, il se rend compte que voilà, cette montre est faite du bruit. Voilà, ce qu'ont vérifié nos confrères de France Info. Voilà. Fin de l'histoire. Bon, donc... Et ce qui est intéressant, c'est que le papy Sam, qui est immergé dans l'info tous les jours, il est parti sur sa colère, il est parti sur son indignation. Il en a même parlé à 2-3 personnes autour de lui en disant « T'as vu cette histoire de la montre ? C'est quand même très choquant ce qu'il a fait. » Et puis, si j'avais fait mon boulot, si j'avais un petit peu gratté, dans les heures qui suivaient, peut-être que je me serais rendu compte que c'était pas si important que ça, quoi. Voilà. Allez, je voulais un petit peu savoir ce que vous en pensez, parce qu'on, grâce à une question qui a été posée dans le chat, on est parti sur cette histoire. C'est pas l'essentiel de ce qu'on va évoquer ce matin. Voilà. Ok. Il y a Jean, alors pas l'excellent Jean Massier. On est sur un, on est sur un. Comment s'appelle déjà, vous savez, le truc chinois là qui fait un truc pas cher là. Wish, c'est ça. On n'est pas sur Jean Massier, on est sur un Jean Massier Wish un peu. J'ai Jean Fassier qui est pas là depuis très longtemps, qui est très énervé dans le chat. Depuis quelques secondes, là, il a créé son compte le 20 mars. Voilà. Et puis c'est un nouveau ici, puis il n'est pas tellement habitué au fait qu'on puisse parler de choses qui nous opposent, mais dont on arrive à parler de façon un peu chill, tranquille, voilà, en respectant les autres. On est tous d'avis différents ici, puis on a fait le pari qu'on arrivait à parler de toutes nos différences d'analyse sur l'actualité, toutes nos sensibilités politiques, philosophiques, mais de façon un peu respectueuse. Et en fait, Jean Fassier, qui n'est pas Jean Massier, en fait, lui, il sait pas tout ça. Donc il s'est cru sur Facebook, et puis je ne vous lis pas les messages de Jean, mais vraiment il est sur autre chose, quoi. Donc il s'est trompé de chaîne. Voilà. Alors Jean, ici ce qu'on fait, parce qu'on va au bout de cette logique d'échange, c'est que on va te dire, je vais te dire, qu'en fait, le pari c'est ça ici. C'est que toutes les opinions sont autorisées, toutes les expressions sont souhaitées, du moment qu'elles soient légales, hein, et qu'elle soit correctement exprimée et respectueusement par rapport aux streamers, mais surtout par rapport aux autres viewers. Et là, tu t'es pas là depuis très longtemps, mais tu es vraiment parti sur quelque chose qui correspond pas du tout à ce qu'on essaye de faire, quoi. Voilà. Donc, on n'est peut-être pas d'accord sur les analyses, mais par contre, il faut en parler de façon un peu respectueuse, quoi. Donc, Jean, pas de ban provisoire pour l'instant, pas de ban def non plus d'ailleurs, mais il faut que tu fasses cette réflexion. De savoir si tu veux participer à cet échange respectueux entre nous tous sur l'actualité, ou si tu veux rester en mode Facebook, Twitter, quoi. Voilà. Donc on regarde tes prochains commentaires, et puis c'est à toi de voir, est-ce que tu veux aller respirer un petit peu l'herbe, et puis revenir de façon un peu plus apaisée, ou si tu veux rester sur le même truc. Mais si tu veux rester sur le même truc, ah ben non! Eh ben, il faudrait que tu ailles voir une autre chaîne, parce que en fait, ça nous intéresse pas, en fait. Voilà. Ok, Jean. On fait comme ça, Jean. Voilà. Moi, je crois beaucoup plus au dialogue qu'à l'anathème et aux sanctions, en fait. Voilà. Donc, voilà. Jean, tu t'es trompé de chaîne. Voilà. Donc, sur l'histoire de la montre. Je reviens sur l'histoire de la montre, parce que Jean était tout colère. Ouais, ok, d'accord. L'histoire est terminée, merci, au revoir. Ok, ah ouais, on est d'accord qu'au fait, bon, il y avait petite tempête dans un verre d'eau. Enfin, tempête autour d'une montre, précisément, quoi. Qu'est-ce qu'il avait dit, Jean? Comme dit MMG7F, il a dit fur. Il a dit essentiellement fur, en fait. Voilà. Voilà. Je pense que le gilet de Samuel est à 500 000 euros. Pense haut de la joie. Oui. Au moins. En fait, il est tissé d'or, mais à l'intérieur. Voilà. Oui, il m'a insulté de putain d'escroc, mais c'est à un moment, je pense que Jean peut se ressaisir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que Jean peut se ressaisir, en fait. Et moi, je crois au dialogue, en fait. Voilà. Je crois au dialogue, quoi. Vous aussi, vous croyez au dialogue? Ah bah non, il a été banni provisoirement. Ah oui, non, il est en colère. Ah, il est en colère. Ok. Donc putain d'escroc, menteur, je partage des fake news, je suis incompétent. Il y a des milliers de chaînes, là, à l'heure où on parle, sur Twitch. Plein de créateurs de contenu en France, à l'étranger, qui font des super trucs, étaient juste venus perdre ton temps, parce qu'en fait, tu en venant ici, tu cautionnes ce qu'on fait ici. En fait, tu ne cautionnes pas, et donc, mais je suis sûr, mon ami Jean, que tu as plein de choses dans ta vie à faire, travail, amour, des choses passionnantes, et pourquoi tu viens perdre ton temps sur un projet éditorial que tu valides pas, en fait, quoi. Ça, c'est très mystérieux, ça. C'est très mystérieux, en fait. Voilà. Je vais peut-être enlever très discrètement mon gilet, qui coûte beaucoup d'argent. C'est marrant, ça, en fait. En fait, alors, qu'on soit en colère, que pour plein de raisons, c'est très subjectif, ce que je fais. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui aiment pas forcément ce que je fais, mais qui viennent pas me le dire, quoi, tout simplement qui occupent leur temps plus intelligemment et qui s'occupent d'autres trucs, quoi. Mais pas cautionner un contenu et quand même venir sur un truc, c'est... Oui, il y a Cédric qui dit on appelle ça être masochiste. Ah oui, c'est peut-être ça, ouais. Ou alors un enfant. Peut-être. Je connais des enfants. Enfin bref. comment ça va aussi, non? Est-ce que je vous montre la petite affiche sympa de l'émission de ce soir. Voilà, rendez-vous à 20h. Bon, eux, ils viennent à 19h30 parce que je leur demande de venir avant pour régler le son, l'image, grâce à l'ami Joe. Voilà. Ce soir, à 20h, il a été au cœur de l'actualité et de l'analyse de l'actualité cette semaine, l'ami Jean Massier, dont je parlais à l'instant. Il a tout cassé Twitch cette semaine en streamant en direct le vote de la motion de censure à l'Assemblée. Voilà. Il a cassé Twitch cette semaine, il a recassé Twitch cette semaine, je l'envie d'ailleurs, en streamant, il avait acquis les droits auprès des producteurs TF1 et France 2, en streamant l'interview présidentielle, voilà. J'étais super jaloux parce que j'étais à Question pour un champion, au même moment, alors que j'aurais adoré streamer aussi ce contenu, voilà. Bien joué Jean, Jean il sera là ce soir à la maison. Rive, l'ami Rivenzi, passionné de sport, passionné d'histoire, le streamer, il sera avec nous aussi, et avec une petite surprise. Rive vient avec une petite surprise. Je ne dis rien. Salomé Sake, au cœur de l'actualité aussi. Salomé, la journaliste, vous savez, très branchée notamment sur les questions d'environnement, voilà, qui suit aussi de très très près ce qui se passe autour de la réforme des retraites, qui était l'invitée hier soir sur France 2. Salomé me dit, Nawal Paris, c'est vrai, et il paraît qu'elle était très 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 bien. Salomé qui vient de sortir un livre que j'ai lu. C'est mieux. Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Voilà, c'est vachement intéressant. Il se trouve que dans tout ce qu'on vit en ce moment aujourd'hui, notamment la question de la réforme des retraites, la question de la jeunesse, elle se pose, quoi. Notamment l'entrée dans le conflit de la jeunesse. Salomé, elle est là ce soir. Voilà, on parlera de son livre, entre autres. Et puis Rémi Buisine, le journaliste de Brut, le journaliste de terrain, le journaliste qui va voir les manifs, voilà, qui fait un super travail. Rémi qui devait être là la semaine dernière, et justement, parce qu'il taffe, parce qu'il bosse, parce qu'il était sur les manifs vendredi dernier, et ben, il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir vendredi soir. Donc, on espère qu'il sera là. Mais s'il y a des manifs, je le connais, l'ami Rémi, il ne va pas venir. Voilà. Donc, Rémi, si tu nous regardes, ouais, Rémi qui s'est fait agresser par un CRS en live, ouais, effectivement. Rémi, je te préviens, si jamais tu ne viens pas ce soir, c'est une menace. Rémi, si jamais tu ne viens pas ce soir, j'annule ta participation à l'émission de ce soir. Voilà. Donc, que cela soit dit, l'avertissement est lancé. Si tu ne viens pas ce soir, je ne t'ouvrirai pas la porte. C'est tout. Voilà. À un moment, il faut dire les termes et il faut être... Voilà. Sinon, il peut ramener les CRS à la maison. Oh, excellent, oui, mon capitaine. Il y a Rémi qui va débarquer avec 5000 manifestants et 200 CRS à la maison. On va rien comprendre. Voilà, on fera un petit duplex, on essaiera de faire un petit duplex. Voilà. Ok. Pas mal, non? On va se régaler ce soir. Voilà. 20h, et puis ce matin, on va lire les journaux, ce qui va un petit peu nourrir notre réflexion quant à ce soir. D'ailleurs, si à un moment, vous voyez un thème, outre la réforme des retraites, hein, parce que la réforme des retraites, obligé, on en parle ce soir. Le 49-3, l'interview du président Macron, ce qui va se passer maintenant. Donc si vous voyez un thème dans l'actu... dont vous jugez que c'est intéressant de s'en saisir ce soir avec nos invités, vous m'en parlez quoi. Hein ? Prends des crêpes, il sera là, me dit Cédoc. Okay. Il aime les crêpes ? Il aime les crêpes ? Super. Ouais, le Crédit Suisse, ouais. Ouais. Alors, 4 invités ce soir, mais Axel Grand écrit dans le chat, j'adore cet humour, vous êtes très fort. 4 invités selon la police, 200 000 selon Samuel Etienne. Oh, je kiffe, mais vous êtes très... Le GIEC, c'est prévu. Ah, vous êtes formidable. Le GIEC, c'est prêt. Bon, je peux vous dire, hein, parce qu'en fait, j'ai bossé ce matin, je me suis levé tôt, pas seulement pour lire les journaux pour vous, également pour bosser sur les 4 thèmes que je propose ce soir à mes invités. Enfin, qu'on se propose ensemble, parce qu'en fait, c'est un travail commun. Où est-ce que je l'ai mis? Je vais ouvrir, je vais vous dire de quoi on va parler ce soir. 4 thèmes. Ça peut évoluer parce que j'ai dit à mes invités que tout peut changer jusqu'au dernier moment. Et ça peut évoluer parce que l'actualité bouge, et ça peut évoluer parce que vous pouvez avoir des super idées, quoi. Alors sachez que le premier thème, c'est réforme des retraites, quelle issue? Quelle issue? Comment on va sortir de ce truc? Quelle est l'issue de ce truc? Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Deuxième thème, j'en ai fait un thème à part, manif et violence. On parle des violences qui émaillent les manifestations contre la réforme des retraites. Vous avez deux camps, on va dire le camp du gouvernement, le camp des forces de l'ordre, le camp des manifestants, les journalistes aussi certains, qui se renvoient la responsabilité de ces violences, qui sont derrière ces violences. Donc ça, j'en ai fait un thème à part ce soir, voilà. Manif et violence. Troisième thème, climat, on peut encore agir. C'est en fait, c'est pas le rapport du GIEC, c'est la synthèse du GIEC, le groupement, vous savez, des experts internationaux sur le climat. Synthèse qui a été publiée en début de semaine, mais qui est passée un peu inaperçue. Synthèse de 7 années de travail du GIEC, avec ce message, on peut encore agir. Il ne faut pas se laisser abattre. C'est le message que le GIEC veut faire passer. On en parlera avec Salomé, parce que Salomé, c'est vraiment un de ses chevaux de bataille, quoi. Ça nous fait 3 thèmes, déjà. Et en général, j'en prends pas plus de 4, parce que sinon, on n'arrive jamais au bout. Le quatrième, c'est « Que veut la jeunesse ?» Que veut la jeunesse ? Salomé vient d'écrire un livre là-dessus, qui vient de sortir, que j'ai lu ce matin, qui est vachement intéressant. « Sois jeune et tais-toi ». Donc, on demandera à nos invités, puis à vous aussi, votre regard sur la jeunesse. Hein, certaines personnes d'autres générations, les boomers pour ne pas les nommer, ont un regard parfois très critique sur cette jeunesse qui serait, je vous résume un peu le livre de Salomé qui est beaucoup plus complexe que ça, mais ouais, avec un petit poil, sinon un petit baobab dans la main, quoi, un peu paresseuse, un peu pas trop engagée, un petit peu alarmiste pour rien sur les questions d'environnement, voilà, qui serait trop biberonnée aux écrans, aux réseaux sociaux, tout ça, quoi, génération débile, quoi. Pensent certains boomers, hein, pas les boomers, quoi. Donc Salomé parle de ce constat. Voilà, sois jeune et tais-toi, taisez-vous les jeunes, vous n'avez rien à nous dire. Disent certains boomers, pas tous. Et Salomé, justement, elle est à la rencontre de dizaines et dizaines et dizaines et dizaines de jeunes. Et elle n'est pas du tout d'accord avec ce constat. Elle dit deux choses. Elle dit d'abord, les jeunes ne méritent pas ce portrait très très noir, négatif qui est brossé d'eux. Et puis les jeunes sont la réponse. La clé essentielle, une des clés aux défis qui se posent à nous, notamment au niveau climatique, quoi. Voilà. Donc, très bonne question. Moi aussi, ça me pose un souci. Réask, ici, on n'ignore aucune question, même celle qui m'embête. Bonjour Samuel, pourquoi ne pas t'imposer une parité homme-femme sur ton émission alors que tu l'imposes des questions pour un champion ? Ouais. J'ai un souci avec ça. C'est vrai que Question pour un champion, c'est un des trucs dont je suis fier. J'ai réussi à, comment dire, à imposer le mot effort, mais à faire qu'il y ait en moyenne 2 femmes sur 4 candidats, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé. C'était plutôt 1 femme, 3 hommes, parce qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui candidataient, en fait, qui se proposaient. Donc on a essayé de travailler là-dessus. Aujourd'hui, on est arrivé à un résultat super intéressant. Et moi, je suis un peu embêté. C'est vrai, je n'y arrive pas trop là. Alors déjà, il y a un truc. Alors c'est moins vrai maintenant que je reçois 4 invités. Quand j'avais 3 invités, ce qui était la base, j'avais 3 invités, et il se trouve que l'animateur, c'est un garçon. C'est moi, en fait, c'est un garçon. Ouais. Et donc déjà, ça fait du garçon, quoi. Donc ça veut dire que quand je reçois 3 invités, ce qui est la règle, hein, 4, c'est exceptionnel, là j'ai très envie de recevoir plein de monde. Du coup, ça faisait, pour avoir la parité sur le plateau, il fallait que j'ai 2 invités femmes et 1 seul invité garçon, puisque moi-même je suis un garçon, vous comprenez ? Donc déjà, ça c'était un souci. Donc j'ai, en fait, voilà. J'ai des émissions où j'ai eu 3 femmes, j'ai des émissions où j'ai eu 2 femmes, pas de souci. Et il y a un autre souci, en fait, c'est que au début, je recevais surtout des journalistes, hein, et puis de plus en plus, je me suis mis à recevoir, vous savez, des streamers et des youtubeurs, en plus, parce que j'aime bien ce mélange. Je trouve que c'est très intéressant de faire confronter ces 2 mondes qui sont un peu curieux de l'un de l'autre, voilà, qui parfois s'ignorent ou se connaissent pas très très bien. Et donc l'émission qui a commencé full journaliste qu'avec des confrères, elle reçoit de plus en plus de streamers et de youtubeurs. Et là je suis un peu embêté. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup plus de retours positifs des garçons, des streamers, des youtubeurs, que des filles. Certaines viennent, il n'y a pas de problème, mais que j'ai identifié dans les youtubeuses ou les streameuses français, et en fait qui ne sont pas tentés par l'exercice, quoi. Alors où c'est ma tête qui leur revient pas, parce que voilà, peut-être que je suis un peu flétri, un peu, je sais pas, peut-être que ça ne va pas, ou alors c'est l'exercice qui les intéresse pas, et il n'y a aucun problème avec ça. C'est-à-dire que elles sont pas obligées d'avoir envie de parler de l'actualité de vendredi soir avec un vieux crouton et avec d'autres gens, quoi. Mais en fait, bon, j'ai un taux de retour positif des streameuses youtubeuses femmes qui est beaucoup plus faible que les garçons. En gros, les garçons, j'invite, ils viennent, quoi. Voilà, c'est cool. Et les filles, c'est plus compliqué. Souvent, j'ai pas de réponse du tout. Pas de réponse. C'est pas non, Parfois, c'est très sympa d'ailleurs. Non, je sens pas l'exercice, je me sens pas. C'est quoi le mot parfois? Mais les garçons me le disent aussi parfois, je me sens pas légitime. Et souvent, j'ai pas de réponse du tout. Alors, bon. Donc là, je. Mais je continue à bosser là-dessus en fait. Ouais. Mais c'est vrai, pour moi, c'est une petite faiblesse de l'émission. Voilà. Voilà. Avamine, elle est venue à la maison, super. Mademoiselle Sunny, elle est venue à la maison, super. Donc il y a des créatrices de contenu qui viennent. Hein. Mimi Hegel. Elle est venue à la maison, super. Elle va revenir aussi. Valérie Damidot, bon, c'est pas une créatrice de contenu, mais voilà. Donc j'ai bossé là-dessus. Voilà. Après, je pense que c'est peut-être que si c'est créatrice de contenu trivial, Little Big Whale, elle est venue à la maison. Mais si ces créatrices de contenu se voient dans l'émission et que voient que ça se passe bien, peut-être qu'elles vont avoir envie. Voilà. Mais donc je bosse là-dessus, mais c'est vrai que c'est une petite faiblesse de l'émission. C'est vraiment chez toi ou c'est un studio, dit Nini Best? C'est vraiment chez moi. C'est vraiment dans la salle à manger que je privatise. Que je privatise. Je demande l'autorisation à mon amoureuse et à mes enfants de privatiser la salle à manger tous les vendredis soirs. Y compris le vendredi après-midi, parce que le vendredi après-midi, avec Joe, on monte tout. C'est-à-dire qu'il faut réinstaller tout, le PC, le setup, les caméras, faire les cadres, la lumière, checker la lumière, réinstaller, bouger la table, mettre les quatre micros, le son, bon bref, les néons, les trucs. Donc c'est beaucoup de travail. Donc c'est vraiment à la maison, mais je me trouve très envahissant. Et donc les habitués le savent. Il y a bientôt un petit studio. J'ai loué un petit studio, un petit appartement à 50 mètres de la maison, où je vais dans pas longtemps. Streamer. Quand je dis dans pas longtemps, c'est dans pas longtemps. Mister Yugi se pose la question de la date. Je vais vous remercier pour les subs dans un instant. Merci la persifleuse. Lundi, je leak, hein, je l'ai dit à personne. Lundi, j'ai les clés du petit appart, petite garçonnière, dont Hélène aura les clés, donc c'est pas vraiment une garçonnière. Un petit studio que je loue pas trop cher, là, dans une petite rue derrière chez moi, voilà, où je vais pouvoir streamer. Alors, toujours dans un cadre un peu artisanal, on n'est pas sur un studio télé, c'est un petit studio, petit appartement quoi. Hein? Donc toujours un petit peu fait maison, mais sans déranger tout le monde, sans arrêt quoi. Voilà, et pouvoir laisser la salle à manger, le salon à la famille quoi. Voilà. Donc à partir de lundi j'ai les clés. Après il faut que je fasse un minimum de décor quoi. Voilà, parce que c'est il est vide, il est blanc, j'ai pas de chaise. J'ai pas de chaise, j'ai pas de table, j'ai pas d'électricité pour l'instant, j'ai pas internet, j'ai pas de frigo. Frigo, c'est important. J'ai pas de machine à café. Ah, j'aurais dû commencer par ça. J'ai rien. Donc, lundi, j'ai les clés. Après, il faut que je prenne l'électricité, internet, l'assurance, un petit peu de décor. Voilà. Que j'achète un petit canapé. Pff, mon Dieu. Les chaises, la table, la bonne table qui va bien pour l'hebdo Étienne. Voilà, un petit peu d'électroménager et tout quoi. Voilà, donc bon, ça va faire un peu de frais. Je remercie les subs de ce matin d'ailleurs. Voilà, entre le moment où j'ai les clés lundi et le moment où je vais faire mon premier stream là-bas, il va se passer du temps quoi. Et oui, encore des dépenses. Et on me dit ça fait cher pour une émission. Alors, je pense que je vais streamer le matin aussi là-bas parce que c'est vraiment collé à la maison. Voilà. Du petit studio, je vois mon appartement, donc c'est vraiment collé. Donc, je vais streamer là-bas. Ça va me coûter des sous, mais c'est un plus grand confort aussi. Et puis, l'idée, c'est à partir de la rentrée de streamer davantage, d'être plus présent, de réussir, je l'espère, à porter des projets, de nouvelles émissions, peut-être hebdomadaires. Et en fait, ce petit appartement servira à ça. Et l'avantage, c'est que tout le matos qu'on va déménager là-bas, et on va pas démonter, remonter sans arrêt avec Joe, refaire toutes les connexions, ce qui est pas très très bon pour le matériel d'ailleurs, de brancher, de débrancher sans arrêt, voilà. Et le matériel, on va le laisser à demeure en fait, on va le laisser à demeure, et ça va nous permettre aussi de gagner énormément de temps dans la prépa en fait. À la base, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, le temps de prépa de l'émission du vendredi, il est ouf quoi. Il y a 3-4 heures d'installation quoi, plus le démontage après quoi. Donc voilà. C'est ça, on va se régaler. J'espère qu'on va se régaler. Merci Fabien pour le 11e mois d'abonnement, c'est pour le loyer. Théor, merci pour le prime, c'est pour le loyer. Graceware, merci pour le 5e mois d'abonnement, c'est pour le loyer. La Persifleuse, merci pour le très gentil message. Je vois effectivement l'échange dont tu parles avec Salomé Saké, le maire de. C'est le maire de Cannes, je crois. Hein. Le maire LR de Cannes, ouais, tout à fait. C'était vachement intéressant. Merci la Persifleuse donc pour ton 12e mois, merci Nira Eline pour le Prime, merci Bobodev, les habitués sont là pour le 12e mois, ça nous fait un an, Darak21, merci pour le 5e mois d'abonnement, merci pour le Prime, Président 2032, ouh, il y a une candidature qui se prépare, 2027 plus 5, ok, il y a quelqu'un qui se prépare une présidentielle en 2032, c'est très intéressant, merci pour ce 6e mois d'abonnement, il faut qu'on parle tous les deux, Superpool, merci pour le 8e mois d'abonnement, je kiffe ton pseudo, Alixiage, merci pour le 9e mois d'abonnement, très gentil message, merci à toi. Butlecham, merci pour le 2e mois d'abonnement. Yo, à toi aussi. Lingard, merci pour ce 13e mois d'abonnement. Il y a un effet, il y a un effet studio, hein. Il y a un effet loyer à payer, là, merci beaucoup. Warscops, merci pour le 10e mois d'abonnement. Hunter Gunter, merci pour le 12e mois d'abonnement. Mais j'ai pas vu tous ces subs, pardon. Merci Isidad, merci Ivo, merci Woosh16, et je crois que je vous ai remercié sinon. Matix Lapoire, Avantoine, avait peut-être Antoine d'ailleurs. Merci à tous les deux. Merci Matix pour le 14e mois. You Rock You pour les beats. Merci et vous êtes formidables. Ouais Manon, mais là c'est une bonne idée. J'aime bien Manon, faudrait que je l'invite. T'as raison. Manon, ouais. Manon, mais là qui anime un stream sur France Info, sur la chaîne Twitch de France Info. Donc on est plutôt du côté de la radio. Tous les soirs à 18h quoi. Voilà. Ouais. Merci Electrip45. Merci beaucoup. Je vous lis un petit peu, ça fait, ouais, ça va, on peut encore prendre quelques minutes, et puis je vous montre les journaux de ce matin. Oui, il y aura, alors Kalindi dit, ouais, il y aura plus d'alerte enfant, les enfants vont plus débarquer. Si, 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 si. En fait, l'appartement est tellement à côté de la maison que je pense que la famille sera toujours là. Voilà. L'idée, de toute façon, c'est que Hélène ait des clés, et que ça, et ça passe quand on veut, quoi. Ça, je veux garder ce côté, voilà. C'est pour ça que je vais chercher un appartement tout près de chez moi, et j'ai vraiment trouvé, mais à quelques mètres, quoi. C'est-à-dire, tu descends chez moi, tu fais 50 mètres et t'y es quoi. Ça c'est top. Voilà. Voilà. Donc il va falloir que je bosse un petit peu pour payer tout ça. Ça me se met pépère sur le long terme. Merci The Berkan. Merci beaucoup. Cannibal Lecteur, et puis le sponsor est justement là pour ça. Oui, merci à France Télévisions d'être devenu mon sponsor, effectivement. Pour l'émission du vendredi. Mais ça va pas suffire. Il faut que je trouve des sous quand même. Gandalf, il va falloir organiser des duplex pour Malo pour les quiz Pokémon. Oui, une émission avec Valérie Damido pour la déco du studio. Ce serait tellement drôle. Ce serait tellement drôle. Ce serait drôle, imagine. Oh, on fait un stream avec Valérie Damido. Imagine, on fait un stream déco. Ça va maroufler. Il est malin Samuel, il a monté une chaîne Twitch uniquement pour avoir enfin sa garçonnière. Écrit ton ami Babar. Je vous rappelle que Hélène va avoir la clé en fait du petit appart là. Voilà. Donc ça n'est pas une garçonnière, c'est très important. Voilà. enfin. C'est fou ça. Il y a la moitié du chat qui est partie sur comme ça, la piste du garçonnière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit appart que prennent... Que prenais-je ? Peut-être que ça n'existe plus, les messieurs, pour recevoir leur maîtresse, pour dire les choses, quoi. Voilà. Pas à nous, Samuel, ok. L'idée de maroufler en live est hilarante. Oh, putain, vachement. En vrai, ce serait drôle. Ce serait drôle. C'est très drôle. Très, très drôle. Très, très drôle. La maroufle est tienne. Exactement. Allez, je vous fais un petit sommaire, je vais vous dire ce qu'il y a ce matin dans les journaux, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Je remercie pendant Panda Nocturne pour le 3e mois. Je remercie Clamakin, comment vas-tu, pour le 9e mois d'abonnement. Je n'ai plus de notification quand tu lances ton stream, me dit Clamakin. Par conséquent, je te donne mon numéro de téléphone pour être prévenu. Palais de l'Elysée 2.0142. Ok, formidable. Le président Macron nous regarde, c'est super agréable. Ozastar, merci pour le Prime. Draverske, merci pour le Prime. RS Nova, merci pour le 6e mois d'abonnement. Et vous êtes formidable. Êtes-vous prêt pour le sommaire de... Merci Nuage Agile pour ta question que je trouve très sympa. Mais je n'y réponds pas. Non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais parce qu'il faut que je fasse le sommaire. Vous êtes prêt pour le sommaire ? C'est parti ? Let's go ! Ok, puisque j'ai votre go, on y va. C'est parti. Voilà. Je me cale sur le... Je crois que j'ai commencé avec le Parisien ce matin. Ouais. Merci Hugo, c'est hyper gentil. C'est parti. Pour ceux qui n'ont que 10 minutes, un quart d'heure à nous consacrer ce matin parce qu'ils ont des choses à faire quand même. Non, vous n'aurez pas de double des clés avec vos points de chaîne. N'insistez pas. Oui, mon capitaine, elle est très drôle celle-là. En 10 minutes, un quart d'heure, l'essentiel de ce qu'il y a dans vos journaux ce matin. J'ai vu le message sur MJCTF. J'ai vu, merci. J'ai vu, j'ai vu, J'ai vu. Tu sais, je vois quasiment tous les messages. C'est pas la peine de le coller 10 fois. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Mobilisation et violence. Ça tombe bien. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus sur ce qui se passe en ce moment autour de la réforme des retraites. C'est cette mobilisation contre la réforme, 1, va-t-elle se poursuivre ? 2, est-ce que ça peut faire reculer le pouvoir ? C'est la première question. 2, qu'est-ce qu'on peut penser de ces violences et vont-elles augmenter ? La 9e journée de manifestation, c'était hier, a été marquée donc par un regain de participation et de très nombreux heurts, je pense que vous l'avez vu à la télé, sur les réseaux sociaux, à Paris comme dans plusieurs villes de l'ouest de la France. Donc le Parisien est vraiment là-dessus, sur ce durcissement, comme le dit le journal, et sur les violences qui s'intensifient. Bon, on en parlera ce soir avec nos invités. Il y a deux camps, hein. D'un côté le camp des autorités et des forces de l'ordre qui dénoncent des agissements de casseurs et ou de militants d'extrême gauche, d'ultra gauche, et de l'autre des manifestants et des journalistes aussi parfois qui dénoncent les méthodes violentes, sinon ultra violentes, des forces de l'ordre. Donc bon, on va essayer de trouver des infos par rapport à ça, qui est un sujet compliqué. Hop, on verra ça avec le Parisien. Alors, c'est lundi, soit ça commence dimanche soir, je crois, mais c'est en lien avec notre histoire de manifestation. La visite du roi Charles III vire au casse-tête. La venue dimanche, c'est dimanche soir, je crois, du souverain britannique, alors que le conflit sur les retraites s'enlise, donne des sueurs froides aux responsables du protocole des deux pays. Les manifestations contre les retraites, la tension qui est actuellement dans notre pays, pourrait bien fortement perturber la visite du roi britannique. Alors, il se trouve que les relations entre la France et la Grande-Bretagne ne sont pas au top, vous savez, post-Brexit, donc il y a des choses à arranger, donc on sent que le président Macron voudrait que ça se passe bien. Il y a Pasquetta qui dit Charles III qui choisit son meilleur moment, c'est vrai. Je pense que la date a été choisie à un moment et que des deux côtés, on n'avait pas anticipé sur ce qui se passerait. Donc, on est assez inquiet, notamment côté anglais, d'image, un peu fâcheuse pour la couronne britannique et peut-être pour l'image de la France aussi, quoi. Voilà. Donc, les inquiétudes de part et d'autre, on verra comment ça se passe. Je pense que lundi matin sur France Info, on sera pas mal là-dessus d'ailleurs. Dans la matinale, je vous donne rendez-vous. J'ai pas vu ça. Il y a Bobine Bookin qui me dit, puisqu'on parle des violences, bonjour Samuel, est-ce que tu as vu le fil d'info de Libé rapportant les derniers propos de Darmanin, donc ministre de l'Intérieur, concernant les violences policières qui sont selon lui infligées individuellement sous le coup de la fatigue? C'est une des théories qui sont avancées par certains pour expliquer ces images de comportements individuels et pas collectifs de policiers sous le coup de la fatigue, disent certains. C'est pas très surprenant que Darmanin mette ça en avant. Sissim4, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. Hugo avec le H, merci pour le sixième mois d'abonnement. On se penchera là sur une des questions qu'on va évoquer. Vous me direz votre sentiment là-dessus. Et puis, je pense que Jean Massier, Rivenzi, Salomé Saké et Rémi Buisine, qui est sur le terrain quasiment tous les jours, j'espère qu'il sera là Rémi ce soir, nous dira son sentiment sur la question de ces violences, en fait. Voilà. Ça, c'est un truc que je suis depuis quelques jours et que vous avez sûrement vu aussi. Et je voulais trouver un article qui nous résumait un petit peu l'histoire pour savoir ce qu'il fallait en penser. C'est dans le Parisien aussi. C'est dramatique, cette histoire. C'est tellement triste. Merci, Caroxys. Ce que l'on sait, vous savez, de la mort d'un lycéen pendant une épreuve du bac à Lille. C'est un jeune homme qui s'appelait, hélas, il faut parler de lui au passé. Merci pour les F, merci pour sa mémoire. Nadir Bekadour est décédé mardi après un malaise cardiaque. Il était en train de passer le bac, quoi. Alors que des témoignages mettent en cause, les témoignages des autres jeunes qui étaient en train de passer l'examen, le comportement des surveillants de l'examen qui ne se seraient pas du tout comportés comme ils auraient dû, il y a une enquête qui a été lancée par l'Éducation nationale. Voilà. Donc on va se pencher là-dessus. Quelles sont les infos, quelles sont les thèses en présence, parce que les adultes, les surveillants et les jeunes sur place ne disent pas la même chose, quoi. C'est dramatique, cette histoire. Voilà. Alors moi, j'apprends par l'article qui est assez carré que ce jeune homme avait d'importants problèmes cardiaques, il avait un pacemaker malgré son jeune âge, et qu'il était sous surveillance, et que je ne comprends pas que cette surveillance n'ait pas été maintenue, et pas été, que les adultes n'aient pas été alertés de son état de santé qui était très fragile, et surtout, manifestement, au niveau de la réaction, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, donc on va se pencher là-dessus. Très triste. Petit horoscope tout à l'heure pour se changer un petit peu les idées. Libération, ce sont les rois du titre. Ce sont les rois du jeu de mots. Hein. La République, non pas la République en as. Hein. On sent le petit clin d'œil à cette technique policière très controversée de la nas. Hein. C'est la République qui est en masse et non pas en as. Loin de l'essoufflement sur lequel misait l'exécutif, la mobilisation de jeudi a vu déferler dans toute la France un nombre de manifestants en hausse. Moi, c'est un truc que j'ai compris ce matin en lisant les journaux parce que il y a plein de questions que je me pose, et puis finalement, la lecture des quotidiens, surtout quand plusieurs journaux de sensibilités différentes disent à peu près la même chose, du coup, je me dis, ok, c'est à peu près ça. Le gouvernement ne s'attend. Ah oui. Ah, La République en marche, il y avait un double jeu de mots. Ah oui. C'est peut-être aussi un clin d'œil avec La République en marche. Je pense que vous avez raison, c'est peut-être plutôt ça. Ou alors un double clin d'œil. Voilà. Moi, je trouvais assez subtil. La République en NAS, à cause de la NAS, je suis à fond sur la NAS, mais c'est peut-être, peut-être plus La République en marche. Vous êtes trop fort. Comme Libé d'ailleurs, trop fort. Et donc, ce que j'ai compris dans la presse ce matin, c'est que le gouvernement ne s'attendait pas, a priori, à autant de manifestants hier. Ils ont été surpris, en fait. Et là, c'est vraiment un événement nouveau, c'est-à-dire que bon, on voit que l'utilisation du 49.3, et l'interview présidentielle, Macron, en fait, a mis de l'huile sur le feu, sur ce conflit, et les gens sont toujours aussi en colère. Voilà. On lira ça, voilà, petit édito de Dovalfond. Et puis, une interview du président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin, qui critique le choix de l'exécutif de réprimer violemment une mobilisation pourtant pleinement légitime. Donc c'est quelqu'un qui, clairement, a pris le parti des manifestants et qui estiment que là, on a un problème de violence policière. Voilà, c'est son analyse, mais je vous la soumettrai. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, entre Le Parisien et Libération, on va à peu près faire le tour de ce qu'on doit se dire ce matin sur la réforme des retraites. Et maintenant, petite gorgée de café. Hydratez-vous, vous aussi. Hein. Écouter et réfléchir, ça prend beaucoup d'énergie. Hein. Hydratez-vous. Kev Rock, merci beaucoup pour le deuxième mois. Norajo, merci pour le troisième mois. Lionel P2, merci pour le onzième mois. Carlsborg, merci pour le quatorzième mois. Caroxys, merci pour le dixième mois. Sissim4, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Tout ça, c'est pour le loyer. C'est pour le petit appart. Voilà. Alors, et maintenant, la question c'est, est-ce que cette réforme qui a été adoptée, pas votée, mais adoptée par le 49.3, est-ce que elle peut ne pas être appliquée ? C'est-à-dire, est-ce que elle peut être retirée, voilà, par l'exécutif. Ça s'est déjà vu dans le passé, pas souvent, mais c'est arrivé. Est-ce que le référendum d'initiative partagée, c'est ça, est-ce que ça pourrait arriver à l'abrogation de cette réforme, de cette loi ? Est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait censurer partiellement ou totalement cette réforme ? Voilà, on fera le point. Grâce à Libération, qui est super, super carré là-dessus. Merci à Neu pour le 8e abonnement. Uto Apodis, merci pour le Prime. Vous êtes super. Non, j'ai pas vu ça, c'est intéressant. King from Nothing, dit Samuel, est-ce que tu as vu l'accusation de corruption de 3 députés corse par Matignon pour ne pas voter la motion de censure ? Non, je suis pas au courant. C'est intéressant. Non, c'est pas populaire. Ouais, c'est référendum d'initiative partagée. Le RIP, le problème c'est que c'est le même acronyme. Il y a le référendum d'initiative populaire qui était proposé par une partie de la gauche. Et en fait, ce qui est entré dans la Constitution il y a quelques années, là, 2000, je sais plus combien, je sais plus, alors je l'ai plus, 18, je sais plus. C'est le référendum d'initiative partagée. Alors comme ça, c'est le même acronyme, parfois on confond un petit peu quoi. Voilà. 2018, c'est ça que j'ai dit, je peux pas tromper. Ok, cool. Jabé2306, merci pour le 6e mois d'abonnement. Et on continue. On est sur le sommaire. Hein. Macron au défi d'une crise qui se durcit. Bon, bah, le Figaro, qui est un journal conservateur, un journal qui ne cache pas être plutôt de droite, et un journal qui ne cache pas du tout être pour la réforme des retraites, hein, ça vous le savez, mais c'est intéressant justement de lire des journaux qui sont d'avis différents. Eh bien, le Figaro n'ignore pas qu'effectivement il y a une crise. Et le Figaro parle de la grande déglingue. Alors là, on est dans le Figaro, dans le camp de l'ordre. Dans le camp de ceux qui voient les manifs, là, qui voient les feux de poubelle, qui voient les violences et qui disent « Basta, là !» Les Français, c'est pas ce qu'ils veulent. Les Français, ils veulent de l'ordre. Bon, c'est le Figaro. Voilà. Donc l'analyse ne vous surprendra pas, mais c'est intéressant aussi de la lire. Le Figaro qui est très très pressé de voir ça s'arrêter. Comment ça va s'arrêter, ça c'est une autre question. Merci Lacroix, parce qu'à un moment vous allez me dire, ah dis donc Samuel, ok c'est super important la réforme des retraites, mais tous les jours, pendant X mois, ce serait bien de parler d'autre chose, ça c'est important aussi. On parle d'environnement, on parle de la bataille de l'eau, de Sèvres, le conflit sur les méga-bassines, vous savez les méga-bassines de rétention d'eau là, voulues par certains agriculteurs. Cuvette artificielle alimentée par un usage intensif des nappes phréatiques va connaître un nouvel épisode tendu samedi. Oui, manifestement, ça s'annonce très tendu. Si demain, sur Internet, sur les chaînes d'infos, vous voyez, demain, on est samedi, ouais, des images, peut-être de violence, d'affrontements violents entre manifestants et policiers, en pleine campagne cette fois et pas dans les villes, vous penserez à ce terme. Aux sources du conflit de l'eau dans les Deux-Sèvres, une nouvelle manifestation d'ampleur contre les retenues d'eau utilisées pour l'irrigation, il y en a déjà eu, hein, vous vous souvenez, est organisée dans les Deux-Sèvres cette fin de semaine, notamment demain. La question du partage de l'eau mobilise fortement les milieux écologistes. Le sujet est clair, bien expliqué par Lacroix, et ça s'annonce un peu tendu ce week-end. Ouais. Qui est-ce qui m'écrit? Oh, il y a Rémi Buzine qui m'écrit, qui m'envoie un petit message audio. Alors, confidentiel, j'écoute. Est-ce qu'on aura Rémi ce soir à la maison? J'arrive. Vous avez entendu le croisons les doigts. Alors, le Rémi, trop gentil, il laisse des messages trop gentils. Rémi, il dit que pour l'instant, il n'y a pas d'appel à manifester ce soir. Et juste après, il dit, en même temps, ça fait 8 soirées, 8 nuits consécutives que ça manifeste. Ok. Donc, c'est... Et il dit aussi, voilà, si ça manifeste, je vais être sur le terrain, bien sûr. Peut-être que ce sera pas trop long et que je pourrais vous rejoindre. Voilà, en tout cas, il croise les doigts très très fort parce qu'il aimerait beaucoup être là. Il aime beaucoup Salomé. Il aime beaucoup... Jean Massier, je ne sais pas s'il connaît Rive, mais il a très envie d'être avec nous, quoi. Donc voilà, on croise les doigts pour que Rémi soit avec nous. En tout cas, il est trop gentil. Donc Lacroix, on lira ça sur le conflit de l'eau. Et voilà, puisque je vous avoue que je vous ai cherché des sujets un peu plus légers pour nous parler d'autres choses. Je sais pas, de mobilité, de transport, d'économie, de sport, de jeux vidéo, de stream, que sais-je. Et en fait, je n'ai pas trouvé. Le truc vraiment sympa, mais c'est pas grave. On en trouvera dimanche matin, parce que dimanche matin, il y aura un stream, bien sûr, aussi. J'ai vu un message du Lesotho. Trop chou. Il y a trop Cridard qui dit bonjour du Lesotho Samuel, je pense le premier viewer dans ce pays très peu connu. Écoute, je ne sais pas si tu es le premier, mais oui, je pense que je n'en ai pas eu beaucoup. Merci et bienvenue à toi. Oui. C'est trop cool ça, qu'on aura du Lesotho. Je lis 2-3 messages et puis on commence cette revue de presse. On est dans les temps, on n'est même pas ensemble depuis une heure. Je me cale sur le Parisien. Mobilisation et violence. Allez, je vous lis. Merci, merci Béné. Merci Béné pour le gentil message. C'est adorable. Mais merci beaucoup. Alors, je vous lis un petit peu. Croisons les doigts. Ouais. Mais il est trop sympa en tout cas. Il est vraiment cool. Il y a Trondheim qui nous parle, je pense, des Deux-Sèvres. Des manifs autour des bassines de rétention. Là. Il dit j'y suis et il y a des barrages de gendarmes de partout. Lacroix promo abonnement numérique à 1 euro pour un mois en ce moment, me dit Bialaoff. En vrai, si vous pouvez lire Lacroix pendant un mois pour 1 euro, regardez quand même les petites notes en bas de page pour voir si ça vous engage pas, mais en vrai, c'est intéressant quoi. Le Figaro, page 1, tu as une pub pour une montre de luxe. Rigole quelqu'un dans le chat. Qui est-ce qui me dit ça? C'est toi, Ma. Bon, alors oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Alors, c'est drôle. Alors, en plus, quand on dit montre de luxe, c'est montre de luxe. Hein. C'est une Richard Mille, c'est français. Ça, c'est une montre. Les premiers modèles sont à 80 000, 100 000 euros. Les premiers modèles, 80, 100 000 euros. On a des montres à 1 ou 2 millions d'euros du côté de Richard Mille. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. Bon, manifestement, certains lecteurs du Figaro peuvent peut-être se payer cette montre. Tout à l'heure, quand j'ai dit la montre du président Macron, la polémique là, on s'est rendu compte que finalement il l'a plutôt enlevée a priori parce qu'elle faisait du bruit et elle vaut pas 80 000 euros comme certains l'ont affirmé sur internet, mais 2 000 euros. Et certains m'ont dit oui, c'est toujours une montre de luxe. C'est à 2 000 euros, on est d'accord, hein, ça reste un très bel objet quoi. Pouvoir mettre 2 000 euros dans une montre, on ne peut pas faire ça quoi. Mais dans cet univers des montres de luxe, pour le coup, 2 000 euros c'est considéré comme l'entrée dans la gamme quoi. L'entrée dans la gamme. Voilà, ça va très très vite au-delà, quoi. Voilà. Exemple avec cette Richard Mille vue par vous dans le Figaro. Comment ça, c'est suisse? Merde! On me dit que Richard Mille, c'est suisse, c'est pas français. Richard Mille, c'est pas un français? C'est un mec, hein. Il existe toujours, d'ailleurs. Merde! Oh, la honte. Richard Mille. Alors, Richard Mille est l'ancien directeur général de la division horloger du joaillier Mauboussin. Alors, il est quoi, lui? Donc, ils ont inscrit leur société au registre du commerce suisse, mais lui, il est quoi, monsieur Mille? En fait, je pense au créateur, en fait. Donc, la marque, elle est installée en Suisse, c'est vrai. Rue du Jura, au Breleu. Voilà. Et Richard Mille, ah, il est là. Richard Mille, il est quoi? Il est né à Draguignan. Voilà, il a toujours 72 ans. Voilà. Donc il est français. C'est pour ça que en fait, je parle. Oui, vous avez raison, c'est une marque suisse. Mais Richard Mille est français en fait. Voilà. C'est pour ça. Comme je suis un peu cocardier, voilà, toujours un peu cocorico, la France, tout ça. Du coup, j'ai toujours envie de dire que c'est français. Quoi, parce que Richard Mille est français. Quoi. Mais vous avez raison, c'est une marque suisse. C'est une marque suisse fondée par un français, vous avez totalement raison. Bien vu, bien vu. Merci. Allez, on lit les journaux plutôt que de parler de montres. Oui. On y va? Let's go. Là, c'est parti. Allez. Alors, je me recale sur le Parisien. Moi, une des questions que je me suis posée ce matin, parce que hier, j'ai dîné, je suis passé un anniversaire d'un copain qui travaille en télé, j'ai vu des figures de la télévision, c'était vraiment un anniversaire interchaîne, j'ai vu des gens de TF1, j'ai vu des gens de Canal+, je sors jamais, puis là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un animateur, un journaliste, et bon bref, on a passé un moment assez sympa. Et en sortant, on avait plein de SMS, de textos de notre famille, qui s'inquiétait pour nous, donc la famille qui vit pas à Paris, parce que avait vu les images à la télé et sur les réseaux sociaux de Paris en feu, quoi. Voilà. Et donc on était dans Paris, dans un endroit très calme, l'anniversaire s'est très bien passé, et on reçoit les SMS extrêmement alarmants, alarmistes, en mode mais est-ce que vous ça va, quoi? Est-ce que vous allez pas mourir, quoi? Et donc j'ai senti que vu de l'extérieur, on pouvait avoir le sentiment que la ville entière était en feu, quoi. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, puisque moi, je passe assez peu de temps sur les écrans, et notamment à la télé, et je m'informe essentiellement par la presse écrite. Je me suis dit, mais alors, quelle est la réalité de ces violences, quoi? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Comment elles se caractérisent? Qui les commet? Voilà. Et bah, ce matin, entre Le Parisien et Libération, on a des éléments de réponse à cette question. Quelles sont ces violences? Et qui sont derrière ces violences? C'est parti. Mobilisation et violence, c'est la une du Parisien ce matin. La 9e journée de manifestation a été marquée par un regain de participation et aussi de très nombreux heurts à Paris comme dans plusieurs villes de l'ouest de la France. Quelqu'un me dit, donc la télé n'arrive pas à nous montrer la réalité, dit Nuage Agile. En fait, je pense que l'image fait... on dit que parfois une image fait comprendre bien plus de choses que 1000 mots. Une image est très puissante et ça peut dire plein de choses. Mais je crois que l'image aussi, elle fait plus appel à l'émotion qu'à la raison, et que parfois on peut se faire, malgré nous, manipuler, induire en erreur par une image, voilà, qui, par définition d'ailleurs, ne montre qu'une toute petite partie de la réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je m'informe avec la presse écrite. C'est un choix très personnel. Je suis un journaliste de l'audiovisuel qui ne s'informe quasiment qu'en lisant la presse écrite, qui est une presse qui prend un peu de recul, hein, qui n'émet pas 24 heures sur 24, même si ces journaux ont des sites internet, qui sortent une fois toutes les 24 heures et donc qui prennent un peu le temps d'écrire les articles en réunissant plein d'informations. Voilà, je sais aussi comment sont faits les reportages à la télé. Et moi, en tant que journaliste et de citoyen, je trouve plus d'informations, plus précises, dans la presse écrite que dans qu'à la télévision, pour une raison toute simple d'ailleurs. Un jour, quelqu'un fait le calcul du temps que devrait durer un JT de 20 heures pour faire entrer le contenu d'un journal comme Le Parisien ou La Croix ou Libération ou Le Monde. Le JT ne durerait pas une demi-heure, il durerait des heures et des heures et des heures. En fait, dans un quotidien, vous avez beaucoup plus d'infos que dans un JT, parce qu'en fait, sur un reportage d'une minute trente, tu ne dis pas grand-chose finalement. Voilà. Bah, bon, c'est pour ça que je lis la presse écrite. Et justement, ce matin, je trouve qu'on a des éléments intéressants pour comprendre cette histoire de violence. Le durcissement, la 9e journée de mobilisation, écrit donc Le Parisien ce matin, était marquée par des violences, des saccages, écrit Le Parisien, à Paris et en région, donc si j'ai bien compris, surtout à l'ouest. Depuis le recours au 49-3, le mouvement social s'est radicalisé. Bon, voilà, on a tous compris. Hein. Je zoome un petit peu, je m'hydrate un petit peu, je remercie Killifis pour les beats, et on lit cet article. Et vous me dites ce que vous en pensez. Oh, c'est affreux parce que tout ce que vous me dites m'intéresse. Je veux m'arrêter une seconde sur le message d'Hardy Lol. Pas Hardisson, hein. Non. Hardy Lol. Je respecte énormément ce métier de journaliste, merci. Mais j'ai beaucoup de mal à croire les journalistes. C'est horrible d'avoir des journalistes qui racontent ce qu'ils veulent plutôt que ce qui est. Tu es sur une question qui est essentielle. Est-ce que les journalistes sont honnêtes? Est-ce qu'ils sont intègres? Est-ce qu'ils sont neutres? C'est la question que tout le monde se pose par rapport à notre métier. Alors, mon sentiment de quelqu'un qui fait ce métier depuis 25 ans ou 30 ans, c'est que la quasi-totalité, l'immense majorité des journalistes que j'ai croisés sont des gens honnêtes, qui vraiment veulent vous informer au mieux, de la façon la plus rigoureuse possible. Ça, c'est l'ambition, c'est la volonté, quoi. L'honnêteté. Moi, je crois à l'honnêteté. Après, parfois, il y a des confrères qui ne sont pas honnêtes, ça peut arriver, comme dans toute profession. Ça, c'est l'honnêteté. Mais l'honnêteté n'est pas tout. Est-ce qu'ils sont neutres? Non. Bien sûr que non. Salomé Sacquet le dit très bien dans son livre qui vient de sortir, dont on parlera ce soir. Sois jeune et tais-toi. Salomé, c'est une jeune journaliste. Là, je crois qu'elle a 27 ans aujourd'hui. Et elle se pose des questions très intéressantes sur notre métier. Elle dit, mais bien sûr que les journalistes ne sont pas neutres. Chaque journaliste, il est le produit d'une culture, d'une histoire, de l'endroit où il est né, des valeurs qu'on lui a transmises, famille, amis... Voilà, de ses études, des livres qu'il a lus, de ses rencontres. Il est infiniment, c'est un être infiniment subjectif. Et il est plein de filtres conscients, ça c'est bien, ou inconscients. Voilà. Il y a Taïa qui dit conditionnement socioculturel. Je préfère parler d'un cadre socioculturel. Voilà. Un journaliste né à telle époque en France, dans telle famille, avec tel parcours, telle rencontre, telle lecture, etc. Moi je crois à tout ça. Il n'aura pas le même regard sur le monde qu'un journaliste qui ne sera pas né en France, mais on va dire aux États-Unis ou en Afrique, à une autre époque, dans une... Vous avez compris l'idée, quoi. Donc, on a tous, comme le dit Erendi, notre subjectivité. Donc, on est plein de filtres, conscients ou inconscients. Le journaliste qui tend à l'honnêteté, qui tend à rapporter le plus fidèlement les faits, puisque c'est son métier de journaliste, rappelons-le, hein, de rapporter les faits aux gens qui le lisent, l'écoutent ou le regardent, il va tendre, s'il fait bien son travail, à l'honnêteté, donc il va essayer de le faire de la façon plus rigoureuse possible, mais en fait, dans son regard, il y a plein de filtres, il y a plein de subjectivités. Voilà. Et Salomé, par exemple, elle dit, moi, je suis une journaliste qui veut assumer sa subjectivité. Salomé, par exemple, voilà, sur les questions d'environnement, elle est quasiment militante, quoi. Voilà. Elle dit, c'est pas possible qu'aujourd'hui, avec tout le rapport du GIEC, on en soit encore là, quoi. Donc elle a des prises de position qui sont très fortes, notamment sur la question de l'environnement ou encore sur la question de la jeunesse, on en parlera ce soir. Et elle assume sa subjectivité, par exemple. Elle dit, par contre, il ne faut pas avancer masqué. Il ne faut pas faire prendre ta subjectivité pour de l'objectivité, il ne faut pas dire aux gens, non, mais moi, ce que je dis, c'est la réalité, c'est juste le constat des faits. Alors en fait, ce n'est que ton regard de Samuel Etienne ou de Salomé Saquet, ou de Poséidon, ou de Hugo 73, ou de Jean-Sébastien, ou de Suzanne 23 dans le chat. Voilà. Donc moi, je crois moins à l'objectivité et la neutralité absolue qu'à l'honnêteté. Merci Ardilol pour ta question et merci du petit message. Qu'à l'honnêteté et à la transparence. Voilà. Donc, moi, je vous rapporte des faits, hein, en lisant les journaux, et puis très souvent aussi, je vous donne mon avis sur le truc. Mais j'essaie de distinguer les deux. C'est-à-dire, quand je vous dis ça, hein, souvent vous m'entendez dire « Ah oui, mais alors ça, c'est ce que je vous dis moi. Ça n'engage que moi. Hein, c'est mon sentiment, c'est mon regard de Samuel Etienne. Hein, ça ne vaut que ça. » Voilà. À vous de vous faire votre propre opinion. Quand je dis ça, c'est une façon de dire, voilà, il y a les faits. Par exemple, là, qu'est-ce qu'il y a comme fait, là ? Le fait qu'il y a énormément de monde dans la rue, hein, mobilisation record, et qu'il y a a priori beaucoup de violence, c'est un constat, c'est un fait. Voilà. Après, comment analyser cette mobilisation toujours très forte contre la réforme des retraites ? Comment analyser ces violences ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Là, on rentre dans l'analyse, quoi. Donc, j'essaie de distinguer ces deux choses-là, quoi. Voilà pour répondre à cette question. Alors, on l'évoque souvent ici, mais elle me paraît essentielle. On revient donc aux faits. On revient aux faits. Ce jeudi, le gouvernement, se l'était dit, serait un baromètre. Hein, c'était la journée d'hier. Alors, quel climat après le 49-3 dégainé par l'exécutif sur la réforme des retraites ? Eh bien, 3,5 millions de manifestants selon la CGT, 1,08 millions selon le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire beaucoup de monde. Record du 7 mars égalé, avec même un record de participation à Paris et nettement au-delà de ce qu'anticipait le gouvernement. Donc là, on est plutôt sur les faits. Maxi Kinder, merci pour le 18e mois. Inforea, merci pour l'abonnement offert à Gugu. Suzanne 23, à perte de vue, vous êtes formidable. Merci pour les subs. Plutôt que l'apaisement qui était rêvé, espéré, souhaité par le président Macron, eh bien un durcissement. Ça, c'est les faits, c'est pas contestable. Hein. Aucun journal ce matin, même ceux qui sont favorables à la réforme des retraites, disent que la mobilisation est en baisse. Personne ne dit ça. Un cortège où la grande majorité des manifestants a défilé pacifiquement, donc ça, il faut le rappeler quand même. La journée fut aussi marquée à Paris comme dans l'ouest de la France par des violences d'un niveau encore jamais vu en marge d'une manifestation organisée à l'appel des syndicats. Ça aussi, c'est des faits, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une donnée essentielle du conflit et des manifestations, les violences qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont en forte hausse par rapport aux manifestations précédentes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, Le Parisien raconte un petit peu. Rapidement, des violences ont éclaté, notamment à Paris, en tête de la manifestation, avec son lot d'affrontements et de dégradations. Pavés, bouteilles, feux d'artifice lancés sur les forces de l'ordre, vitrines, abribus brisés, poubelles, kiosques à journaux brûlés. Toujours cette ambiance de chaos en début de soirée, notamment du côté de la place de l'Opéra. Vers 22h, on dénombrait 149 policiers et gendarmes blessés, 172 individus interpellés, 190 feux allumés, ça c'est le petit décompte du Parisien. Ce qui est assez intéressant, c'est que tous les jours on a à peu près le décompte des policiers et gendarmes blessés, mais on l'a jamais pour les manifestants blessés. Voilà. Et le seul article que j'ai vu l'évoquer disait qu'il n'y aurait pas de source fiable. Quoi. Il n'y a pas de comptabilité. Bon. D'un côté, on a un corps très organisé, police-gendarmerie, qui compte ses blessés et qui communique là-dessus. Et de l'autre, manifestement, alors je l'ai peut-être raté, mais en tout cas dans les articles que j'ai lus, personne n'est allé faire le compte. Alors quoi, il faudrait, il y a sûrement quelqu'un qui le fait, mais je ne l'ai pas trouvé, il faudrait qu'une assoc, qu'une ONG, que quelqu'un fasse le tour, imaginez le taf, des hôpitaux en fait, par exemple, pour comptabiliser tous les blessés liés aux manifs, quoi. Mais vous imaginez le taf, on parle pas que de Paris, quoi. Il faudrait faire le tour de tous les hôpitaux de toutes les villes où il y a des manifs, voilà. Alors que du côté de la police et de la gendarmerie, c'est facile en fait, c'est un corps organisé, donc les statistiques remontent très très vite et ils communiquent là-dessus, quoi. Voilà. Donc on n'a pas ce chiffre, il n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé. Si jamais vous le trouvez, ça m'intéresse. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il nous manque une info là. Hein, pour comprendre la réalité de ce qu'on peut appeler les violences policières, eh bien, il nous faudra un chiffre de manifestants blessés tous les jours. Je ne l'ai pas. Donc il y a des violences, il y a des gens qui sont tabassés, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas ce chiffre. Ça m'emmerde. Donc aussi. Ces violences, c'est le cauchemar des syndicats. qui veille sur le soutien de l'opinion, bah oui, le risque, à un moment, il y a toujours une partie de la population qui privilégie l'ordre, le calme, aux violences. Donc, une des craintes des syndicats, c'est que la mobilisation très forte, les manifestations toujours très très importantes, à un moment, elles perdent en appui auprès de la population, voire même en nombre de participants, en raison des violences, quoi. Donc ça, c'est la crainte des syndicats. Et, alors je ne suis pas dans la tête du président Macron, mais on pourrait imaginer que c'est peut-être l'espoir d'ailleurs de l'exécutif, à savoir que les violences auxquelles on assiste ici, eh bien, fassent basculer une partie de l'opinion dans le camp du maintien de l'ordre, hein, du retour au calme. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces histoires de violence, elles sont très importantes à traiter. Alors, quand je dis c'est un espoir, je ne dis pas que les violences c'est un espoir de l'exécutif. Hein. Je dis qu'une partie de la population, au vu de ces violences, se range dans le camp de l'ordre. Ça, c'est un espoir de l'exécutif. En revanche, l'exécutif craint quelque chose sur les violences. Un dérapage. Le Parisien cite un ministre. Il faut réussir à contenir la violence avec des policiers poussés à bout tout en évitant les bavures. Et là, c'est la crainte de la bavure. Hantise dans les couloirs ministériels. Si vous avez un autre Malik Oussekine, et ça c'est très mauvais, tremble un membre du gouvernement. Voilà. Allons voir d'ailleurs. On va essayer d'être carré. Donc l'affaire Malik Oussekine, ça remonte. Hein. Jeune homme qui avait trouvé la mort. Ici, pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà. Et en fait, ça c'est vraiment une crainte de tout le monde. Malik Oussekine, donc affaire de violence policière française, c'était il y a longtemps, hein, du 5 au 6 décembre 86 dans la nuit. À l'époque, il y avait une contestation contre un projet de réforme de l'université appelé réforme de Vaquet. Les faits, donc Malik Oussekine, c'est un jeune homme qui avait 22 ans. Là, il est étudiant à l'école supérieure des professions immobilières. Il a 22 ans au moment de son décès et voici le contexte. Donc, on est où là? Les faits, voilà. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, les CRS reçoivent vers 1h du matin l'ordre d'évacuer les groupes étudiants qui dormaient à l'intérieur de la Sorbonne. Les CRS pénètrent dans la Sorbonne, libérés après 20 minutes, sans aucune résistance. Mais vers minuit, un autre ordre a demandé aux voltigeurs motocyclistes, je vois les F dans le chat, de faire des rondes pour rechercher de prétendus casseurs dans le quartier latin. On est autour de la Sorbonne. Voltigeurs qui avaient été mis en service par un ministre qui s'appelait Robert Pendreau, voilà, qui était le ministre délégué à la sécurité auprès de Charles Pasqua. Alors les voltigeurs, ce sont des policiers montés à deux sur une moto. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà, c'est les ancêtres... Comment on dit Brave M, on dit BRAVM ou Brave M? Comment on prononce d'ailleurs? Parce que je le vois écrit, mais comme j'écoute pas les reportages à la télé, on dit Bravam. Qui m'appelle? Numéro caché. Brave M, c'est ça. Donc ça rappelle quand même les Brave M d'aujourd'hui, quoi. Alors on en est où? Voilà, deux policiers sur une moto, l'un conduit, l'autre est armé d'un... de ce qu'ils appellent un bidule, une grande matraque de bois dur destinée à faire le vide au passage de la moto. Ils ont pour mission de nettoyer les rues après les manifestations en pourchassant les casseurs. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce corps de police, donc des voltigeurs, eh bien, il a été dissous. Il a été dissous après la mort de Malik Oussekine. Et aujourd'hui, les Brave M sont un petit peu les héritiers de ces voltigeurs, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Vers minuit cette nuit-là, trois voltigeurs prennent en chasse ce jeune homme, Malik Oussekine, qui vient de sortir du club de jazz dont il était un habitué. Voilà. Donc on n'a pas affaire à un manifestant. Il croise un autre jeune homme, Paul Bézélon, qui est fonctionnaire au ministère des Finances, qui rentre chez lui. Qui lui ouvre la porte d'un hall d'immeuble. Tous deux viennent d'entrer. Quand les policiers, donc puisqu'il est poursuivi, hein, alors qu'il sort de son club de jazz, donc un jeune homme lui ouvre la porte d'un hall, et le problème c'est qu'un des policiers parvient à se glisser à l'intérieur de ce hall d'immeuble, et ouvre ensuite à ses deux collègues. Voilà. Selon le témoignage du jeune homme Paul Bézélon que je viens d'évoquer, les trois CRS rouent de coups de pied et de matraque le jeune homme dans le ventre et dans le dos, Malik Oussekine, tombés à terre, qui leur dit pourtant qu'il n'a rien fait. Paul Bézelon essaie de venir en aide aux jeunes, il reçoit aussi des coups de matraque. Il déclare dès le week-end à la télévision que les policiers se sont précipités sur le type réfugié au fond. Ils l'ont frappé avec une violence incroyable, il est tombé, ils ont continué à frapper à coups de matraque et de pied dans le ventre, dans le dos. Un autre témoin décrira des taches de sang sur les murs, des éclats de verre, des plaques de boîtes à lettres brisées. Et le patron de l'hôtel Stella, qui était à côté, des CRS dans un état incroyable, hurlant des ordres comme à la guerre. Dix minutes plus tard, le SAMU arrive, apporte les premiers soins, transporte Malik Ousekine en réanimation aux urgences à l'hôpital Cochin. Il est officiellement décédé à 3h20. Voilà. Ça, c'est l'affaire Malik Ousekine. Conséquences immédiates. Donc là, c'est les conséquences politiques. On est en 86, hein, c'est ça ? Alors, est-ce que le... Ouais, je me demandais, est-ce que le projet de loi est retiré ? Oui. Le ministre de l'Éducation donc supérieure de Vaquet... démissionne, le projet de loi est retiré, voilà, et les voltigeurs sont dissous. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que ce qui avait aussi ajouté à la polémique à l'époque, c'était les propos de certains ministres. Donc Robert Pendreau, ministre délégué chargé de la sécurité sous Charles Pasqua, avait déclaré dans une interview au Monde « La mort d'un jeune homme est toujours regrettable ». Mais je suis père de famille et si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con dans la nuit. Voilà. Un an plus tard, un journal local du Front National dans le Var, Front National c'est l'ancêtre du Rassemblement National, aurait écrit le 20 janvier 88 que des Français comme les Ousekine, on peut s'en passer. Certains me demandent si les policiers ont été condamnés. Ben justement, on est sur un passage qui l'évoque. Jean Schmitt, brigadier chef. Christophe Garcia, gardien de la paix. Les deux voltigeurs directement impliqués dans la mort sont jugés aux assises pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'avocat général demande une peine de 5 prisons, de 5 ans de prison dont 3 fermes, et ils sont finalement condamnés en 90 à une peine symbolique, 5 et 2 ans de prison avec sursis. Les deux policiers échappent donc à la prison. Voilà. Et ils n'ont pas fait de détention préventive non plus. Voilà. Voilà. L'affaire Malik Ousekine. Alors pourquoi on revient un petit peu dans l'histoire ? Bah, tout simplement parce que ça nous permet de comprendre l'inquiétude aujourd'hui des syndicats, mais aussi, et maintenant vous allez le comprendre, du gouvernement, d'une, le mot est affreux, hein, mais d'une bavure de ce type, qui mènerait par exemple à la mort d'un manifestant ou d'une manifestante. On voit qu'à l'époque quand même ça a entraîné le retrait, la démission du ministre concerné et le retrait de la réforme. Quoi. Voilà. Donc à la fois la violence peut jouer... pour le gouvernement, en rangeant une partie de la population du côté de l'ordre, hein, le retour à la normale, on ramasse les poubelles, plus de manifestations, on arrête de brûler les trucs, etc. Et donc, pour partie, la violence joue un peu pour le gouvernement, et en même temps, il la redoute, puisque s'il y a un dérapage, s'il y a une bavure, le mot est affreux, hein, on parle de la mort d'un homme, mais bon, c'est le terme consacré, eh bien, à l'époque, par exemple, ça avait conduit au retrait de la réforme. Je remercie Nem Sensei pour le Prime, Drunk Gamer, comment vas-tu pour le 15e mois d'abonnement. C'est très drôle ce que tu dis sur ce Rayu et Zora. Je vois. Laughing Flow, merci pour le 6e mois d'abonnement. Benjamin Gambon, merci pour le 2e mois d'abonnement. Et à l'instant, Kurogine 971, merci pour le Prime. Continuons l'article. Vous voyez, la réflexion sur les violences dans les manifestations, ça, c'est très intéressant parce que ça peut nous emmener très très loin. Sur le front des retraites, ben, y a une nouvelle haie qui se dresse pour le gouvernement, parce que vous avez là c'était la 9e journée de mobilisation hier. Il y a une 10e journée de mobilisation qui arrive mardi prochain, hein, le 28 mars, que l'intersyndicale avance comme une réponse aux contre-vérités d'Emmanuel Macron et à son entêtement incompréhensible. Notons que l'intersyndicale est toujours unie, ça c'est très important. Le président Macron, il a réussi un truc dans cette histoire. Il a réussi à rassembler des syndicats qui, il y a encore très peu de temps, ne voulaient pas se parler. Quoi. CGT, CFDT, c'est un peu des frères ennemis. Quoi. Donc, avoir réussi l'unité syndicale contre lui, contre la réforme des retraites, donc c'est déjà quelque chose. Et ce qui est très important, c'est cette unité syndicale qui ne va pas de soi. Hein. Les syndicats, parfois, ils se tirent bien la bourre. Quoi. Cette unité syndicale, elle est toujours là. Du coup, 10e journée de mobilisation, mardi prochain, Le président a jeté un bidon d'essence sur le feu, estime Philippe Martinez de la CGT, à la fois avec le 49.3 et à la fois avec son interview à la télé dont on a parlé. Voilà. On va continuer sur les violences avec le petit article page 3 du Parisien, mais je vous lis un petit peu quand même. Oui, de Brevent. Oui, je fais pas grand chose, hein, mais c'est une façon aussi de voir comment on peut procéder pour vérifier les infos et mettre du sens à l'actualité. Il y a De Brevent qui dit « Merci de redonner le contexte, d'expliquer les références. Revoir notre histoire nous permet de voir que, quelle que soit notre époque, nous rencontrons les mêmes problèmes, les mêmes injustices. » Tous les gens qui s'intéressent à l'histoire savent que l'histoire, c'est pas l'étude des vieilleries, mais c'est l'étude des faits passés pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui et pour, idéalement, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Par exemple, l'histoire, c'est ça, en fait, hein, l'histoire. C'est ça qui rend passionnant l'étude de l'histoire, quoi. Histoire contemporaine ici. Il y a mon amoureuse qui vient de sub cette chaîne. Merci beaucoup, ma puce, pour ton sub. Ça va partir dans le loyer que je vais commencer à verser à partir de lundi prochain. Merci. À voir son amoureuse qui sub sa chaîne, quoi. Je vis ma meilleure vie. Pifomètre, merci pour le 16e mois d'abonnement et le gentil message. Layokan, la question est, parlons du gouvernement, sont-ils inquiets d'un nouvel événement de ce type parce qu'ils ne veulent pas de mort ou parce que cela les obligerait à retirer le projet? J'ai pas la réponse à cette question. Merci Antoine DRZ pour le Prime. Comment ça, elle est pas VIP? Mais si, je l'avais mis VIP. Attends, je refais. Mon épouse est pas VIP. Je l'avais fait pourtant, mais ça avait pas dû marcher. Si, je pense qu'elle est VIP, je pense. Elle est VIP. Elle est déjà VIP. Le chat me dit qu'elle est déjà VIP. Voilà. Puisque mon amoureuse est là, je vous rappelle que Hélène aura les clés de ce que vous appelez la garçonnière et de ce que moi j'appelle mon petit studio de stream. Voilà. On repart sur les violences ? À Paris, la manifestation dérape sur les grands boulevards. Donc, reportage du Parisien sur la manif parisienne. Alors que le défilé syndical s'ébroue pacifiquement à l'arrière, encadré par les services d'ordre des différentes organisations, plusieurs centaines de manifestants radicaux, souvent jeunes, vêtus de noir, lancent les hostilités à l'avant. La manifestation d'hier à Paris était émaillée d'incidents, des débordements essentiellement imputables aux milliers d'éléments radicaux recensés par la préfecture de police et postés à la proue du long serpentin humain de protestataires. Selon les forces de l'ordre, l'essentiel des violences sont dues à ces manifestants, militants, qualifiés de radicaux ou d'ultra-gauche. Les poubelles urbaines sont consciencieusement incendiées, le bruit sourd des vitrines fracassées rythme le parcours, les kiosques et les panneaux d'information de la municipalité sont vandalisés. Paris n'était pas le seul théâtre de débordements très violents. Rennes, Lorient, Nantes, Bordeaux, des bâtiments publics ont été attaqués ou en partie saccagés. Certains étaient dans la manif, dans ces villes-là, ici ou pas? Vous pouvez témoigner de ce que vous avez vécu ou pas? Je vous lis. Est-ce que certains étaient dans les manifs hier? Oui, à Nantes. J'ai tout stream à Nantes, me dit Pantoufle. À Rennes, je me suis fait gazer, me dit Ebo, c'était horrible. Ok. Ouais. Et est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez vécu, en fait? Ambiance de guerre civile à Paris, me dit Flambiatch. L'entrée de la mairie de Bordeaux brûlée, me dit Aurel Outan. Ou Aurel Outan. Bordeaux, j'y étais de 12h à 13h30. Le cortège était super calme, me dit Eurodile. Bordeaux, très calme, sauf casseur le soir, renchérit Elric Hugh. La violence policière est un outil pour l'État, estime Babinov, d'une part pour faire peur et empêcher les gens de manifester. Animon était tranquille. Bordeaux, le bordel, estime Tichaori. Angers, assez tendu avec la police. Moi, dans ma campagne, une vache a beuglé, j'ai eu très peur, me dit Totoni, merci beaucoup pour cette contribution. À Nantes, énormément de monde, me dit Moko à Lynx. Arras, grand cortège, nombreux manifestants sans débordement. Dans la manif, mais calme chez nous à Metz, me dit Francis, qui est un des modos de la chaîne. J'étais à Rennes, ça a gazé, me dit Éricite. À Paris, on s'est fait gazer par la police pendant toute la manif, me dit Lara. Beaucoup de grenades de dispersion à Rennes, ça sentait beaucoup le gaz lacrymo, me dit Liolive. À Cherbourg, c'était calme, mais on était nombreux pour une ville comme la nôtre. J'ai quitté le cortège avant Opéra, j'ai bien fait, me dit Scalplex. Moi, sur Paris, je me suis pris du gaz alors qu'on était dans le cortège pacifique, me dit Ticanis. Je te conseille le stream de David Dufresne, hein, notre ami, qui montre cela. Donc vous êtes plusieurs à me dire quand même qu'à Paris, on prenait du gaz, même en étant dans la partie pacifique de la manif, quoi. C'est intéressant. The Barbu, ça c'est le genre de témoignage qui m'intéresse pour essayer de comprendre ensemble. Parce qu'il y a les infos qui sont émises ici, mais les infos, vous étiez sur place, vous avez vu des choses. Vous êtes autant de sources d'informations. The Barbu, bonjour, merci à toi, bonjour. J'étais à la manif de Paris hier, les casseurs étaient plus vers le milieu du cortège, c'était majoritairement des jeunes, avec des envies de frissons, mais sans conviction politique. Ça c'est un des trucs que disent les autorités, effectivement. Je cherche un peu des témoignages dans ce sens. Toulouse, pacifique, me dit Pop. Lyon, gros gazage, pas mal de violence, me dit Winkidos. À Paris, moi, c'était chill, on dansait derrière Force Ouvrière, me dit Clouse. Effectivement, à l'arrière de la manifestation, manifestement, ça allait très très bien. Metz, tranquille. Je me suis fait gazer à Angers. Paris, en soirée, l'enfer. À Périgueux, très calme. Gros jour de mobilisation, bonne musique. Toulouse, ça a dérapé assez vite, me dit Chili Chunk. Tiens, Giddy Up, yes à Paris. On a eu, effectivement, à Paris, me dit Giddy Up, des manifestants violents. Mais à la fin de manif à Opéra, nous étions encerclés par les forces de l'ordre qui ne voulaient pas nous laisser sortir. Nous étions pris au piège. Ils étaient là pour nous rappeler qu'ils avaient le contrôle, mais c'était beau de voir toutes ces personnes rassemblées malgré tout. C'est très intéressant. Ok, merci pour... C'est vachement intéressant. Merci de ces témoignages. DH, première manif sous cette réforme. Tous les panneaux et abribus sur les chemins étaient cassés. Je parle peut-être de Paris. Toutes les poubelles étaient cramées, mais pas vu d'action violente. À Lyon, ils ont eu des lacrymos en illimité, je pense, me dit Finren. Toulouse, beaucoup de monde, très calme, dit Anonyme 31, l'un de nos modos, en tout cas jusqu'à la fin officielle de la manif. Avignon, très calme, Rennes-la-Rouge, à Paris, beaucoup de jeunes, ça faisait plaisir, me dit Scalplex. Ok. Merci, c'est hyper intéressant parce que ça participe quand même à la compréhension de l'ambiance, de ce qui se passe. Lyon, cortège calme, sauf tout devant, et ensuite grosse nasse à l'arrivée, tous gazés, place Bellecour. Clément, ambiance hyper tendue à Paris, surtout vers la fin, en ayant fait quasiment toutes les manifs de cette séquence, très intéressant, on est sur la 9e journée de mobilisation, on sent que c'est beaucoup plus tendu que sur les premières, l'arrivée à Opéra était assez terrible avec des affrontements violents. Alors, moi je pose une question toute simple, parce que je pense que vous allez peut-être m'aider à comprendre, peut-être plus encore que les journaux. Du côté des manifestants, si on reste du côté des manifestants, on va évoquer aussi les violences qui viennent des policiers. Si on reste du côté des manifestants, qui sont, selon vous, les auteurs des violences ? C'est-à-dire des jets de projectiles sur les policiers, des incendies, qui ? Je lis, hein, des jeunes cons, ça m'intéresse. Ce que vous avez vu, des black blocs. Non, on va en parler des violences policières, mais quand je vous demande qui... lance des projectiles sur les policiers, ne répondez pas, les policiers. Black Bloc et Pirate à Toulouse. Des gens qui en ont plein le cul, me dit Circal. Des Black Bloc, des gens en colère, des fans de Méluche, des anards, des Black Bloc, beaucoup d'anarchistes. des gens qui profitent des manifestations pour profiter de se sentir libre, des jeunes crétins et des radicaux. À Rouen, c'était très anarch et libertarien. Extrême gauche, des personnes à bout. Juste des cons, pas que des jeunes, des anarchistes et des cons en manque d'adrénaline. Je vous lis. Hein. Des jeunes avec des casques, des masques, des black blocs. Rarement de vrais manifestants. Des black blocs avec des objectifs de destruction. Je vous lis des casseurs, des anarchistes, des black blocs. Des jeunes très bien organisés qui provoquent des mouvements de foule et de panique pour attiser la haine. Des personnes qui se sentent bafouées par ce qui se passe. Aubry, j'ai lancé des projectiles. C'était ma première fois après que des CRS aient gazé des vieux à côté de moi. Hein, ça renvoie à ceux qui disent, dans les gens qui provoquent aussi des violences, il y a aussi des gens très en colère. À vous lire, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui sort de tout ça? En fait, qu'il y a deux profils, en fait. Ou de militants d'ultra-gauche, black bloc et casseurs, c'est pas tout à fait la même chose, ou de gens très en colère, quoi. Intéressant. Ok. Ça, vous savez, les retours que vous me faites là, moi vraiment, ça me sert beaucoup pour le débat qu'on va avoir ce soir avec nos invités. Dans l'hebdo Étienne, puisqu'on va à un moment, on va parler de ces violences. Je vous rappelle la line-up de ce soir. Jean Massier, le streamer, est avec nous. Rivenzi, le streamer, est avec nous. Salomé Saké, la journaliste, est avec nous. Et Rémi Buzine, s'il n'est pas parti sur une manif, sera avec nous aussi. Allez, on continue l'article. Merci en tout cas de toutes ces infos. C'est hyper intéressant. Je remercie les derniers subs, Petit Dragon Vert de Rage pour l'abonnement offert à Mme Gonag, merci. Dahu88, merci pour le 13e mois, j'espère que tu n'es pas superstitieux, non ça va. Harper, merci pour le Prime. Antoine, pour le Prime également. Pifomètre, merci pour le message. Et encore merci à mon amoureuse qui a sub tout à l'heure. Bon, on a lu l'article sur la violence du Parisien. On va revenir sur la question de la réforme des retraites, de ce qui va se passer. Des violences avec Libération, avec un regard un peu différent que celui du Parisien. C'est hyper intéressant. Mais d'abord, on va faire un petit passage par le roi Charles III, donc, qui a succédé à sa maman, et qui donc, a priori, fait sa, Winnie Sam, bonne journée, sa première visite officielle de roi en France. Sauf que, ça commence dimanche soir, dans un contexte, comment dire, un petit peu particulier, quoi. Il y a un grand dîner. Trop chic, qui est prévu à Versailles, et ils se demandent s'ils vont pas annuler ou faire ça ailleurs, parce que ça pourrait être un petit peu perturbé, cette histoire, quoi. Let's go. La visite du roi Charles III vire au casse-tête. La venue dimanche, c'est dimanche, du souverain britannique, alors que le conflit sur les retraites s'enlise, donne des surfroids aux responsables du protocole des deux pays. L'événement doit être le point d'orgue de la visite du roi Charles III et de la reine consort Camilla, un dîner prévu lundi soir sous les ors du château de Versailles, dans la prestigieuse Galerie des Glaces, voilà le dîner quoi, c'est pas un pique-nique, hein, en présence de quelques 150 invités triés sur le volet, je ne suis pas invité, pour célébrer l'amitié entre la France et la Grande-Bretagne, suprême honneur, un dîner à la Galerie des Glaces à Versailles, c'est le must en termes de réception officielle offerte par la République française, rares sont les chefs d'État étrangers qui ont pu en profiter, commente un habitué du protocole. C'est la classe. Dans la galerie des glaces, d'ailleurs. Payé par qui, dit viewer de l'ombre, ma gueule? Bah, à ton avis. Hein? Oui, bah oui. Voilà. Bon. Relation diplomatique, on va dire, quoi. À ceci près, parce que ce dîner va peut-être pas se tenir, on va voir, que ce scénario préparé depuis quelques semaines par l'Élysée et Buckingham pourrait être percuté de point fait par l'actualité brûlante de ces derniers jours. Depuis Londres, les événements en France sont suivis de très près, nous explique le journal, les images de Paris avec les rues jonchées de poubelles, frappées par une grève des transports, de scènes d'émeutes urbaines, tournant boucle sur les chaînes britanniques. Le timing est gênant de fou, me dit Inforéa dans le chat, au point de craindre que le déplacement royal ne soit perturbé par des actes de malveillance. Politiquement et diplomatiquement, ce serait dévastateur pour l'image de la France à l'étranger. C'est vrai. Si on fait abstraction de la polémique du débat sur la réforme des retraites, je sais pas, voir effectivement une visite du roi Charles III qui se passerait très 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 mal et tout, Oui, en termes d'image, voilà, rappelons que la France est une destination touristique hyper importante, peut-être que ça, oui, ce serait pas bon. Le roi, imaginez le roi Charles III qui, je sais pas, qui tombe dans une montagne de poubelles lors d'une petite balade parisienne, bon, ça serait pas top du top. Politiquement et diplomatiquement, ce serait dévastateur pour l'image de la France. Même un camouflet, il va un confident du chef de l'État, qui plus est au moment où les relations entre les deux rives sont un petit peu au réchauffement après des années de disputes sur fond de Brexit. C'est vrai que entre la France et la Grande-Bretagne, bon, historiquement ça a toujours été un peu compliqué, mais depuis le Brexit c'est tendu, c'est très tendu. Et là, avec le nouveau Premier ministre, là il y a des petits efforts, voilà, et peut-être que cette visite du roi Charles III va participer d'une détente, d'un réchauffement entre Londres et Paris, donc il faut que ça se passe bien, quoi. Estime-t-on des deux côtés, quoi. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Ça, je ne sais pas. Je sais par contre que lundi matin, dans la matinale de France Info, que j'ai le bonheur de présenter, sur le... Oui, Camilla sera là. Quelqu'un me demande si Camilla sera là. Eh bien, on va en parler, on aura pas mal de directs là-dessus. Alors, depuis tout à l'heure, il y a des gens qui me disent que l'actrice Marion Gamme est décédée. Bon, oui. C'est triste parce que c'est une super actrice, mais comment dire, on n'est pas sur une chaîne d'infos en continu, quoi. Hein, c'est pas BFM ici, quoi. Donc oui, j'ai vu, mais comment dire, ici on est plutôt pour décrypter l'actualité et lire des articles qui réfléchissent un peu à l'actualité. Bon, bah, c'est une info un peu brute, mais bon, je vous la donne parce que pour certains c'était important depuis tout à l'heure. Oui, Samuel Marion Gamme est mort, voilà. Donc, oh non! Et J.D. Hub qui dit « Pas la peine d'en faire une scène de ménage non plus. » Oh non, 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 non. Non, non. Non, un peu de respect quand même. Donc, Marion Gamme est morte. Voilà. Elle a l'air sympa d'ailleurs. Elle a l'air sympa. Ouais. Je reviens à ma visite du roi Charles III. Quid de la descente des Champs-Élysées? Parce qu'il y a quand même une descente des Champs-Élysées avec 140 chevaux qui sont prévus. J'ai mis très bien le cheval, vous l'avez vu. 140 chevaux de la garde républicaine qui est prévu lundi matin. Alors en ce moment, les Champs-Élysées, est-ce qu'ils vont garder ça? Est-ce qu'ils vont garder? Impossible que ça se passe, estime Léa Havana. Voilà. Les bains de foule pourraient aussi être limités, voire proscrits. Hein. Charles III doit arriver dimanche soir à Paris, accueillir la gare du Nord par Elisabeth Borne. Il repartira mercredi pour Berlin. Voilà. Oh, c'est mignon, il y a plein de gens qui envoient des petits F pour Marion Gamme. Vous êtes cool. Monsieur Chibre qui imite bien les chevaux, c'est pas étonnant, me dit Néphalion. Vous êtes très en forme. Anatole 11, merci pour le troisième mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Oui, elle est... oui, je sais. Ah oui. Oh, vous êtes mignon. Vous êtes en train de rendre un grand hommage à Marion Gamme. Vous voulez qu'on fasse un breaking news, Marion Gamme? Vous voulez qu'on casse tout, qu'on casse l'antenne et qu'on fasse un stream spécial Marion Gamme? Oui. Oui. Petite vidéo peut-être, petite image de Marion Gamme pour lui rendre hommage. Allez, let's go. Je vais essayer de trouver une petite vidéo, une petite image qui bouge pour lui rendre hommage. Oui, mais elle était jeune, non? Quel âge elle avait? 84 ans. J'ai un article du Point ici. La comédienne Marion Gamme, qui a incarné Huguette dans la série à succès de M6 Scène de ménage, est morte donc. Jeudi, donc, mais je crois qu'on l'a appris aujourd'hui, à 84 ans. Longue carrière au théâtre, à la télévision, au cinéma. Parce que beaucoup l'ont découvert dans Scène de ménage, mais avant de retrouver cette célébrité sur le tard, grâce à Scène de ménage, avec Gérard Hernandez, vous savez, en fait, elle avait une sacrée carrière, notamment dans les années 70-80. Quoi. Voilà. Mais oui, bien sûr. Oh là 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 là. Allez, on ferme ce truc là. Oh. Oh. Regardez ce que je me prends là. Bêtise là. Pas me faire avoir. Vous me prenez pour un zouzou, quoi. Comment je ferme ça? Quitter. Voilà. Oh là, j'ai tout cassé. Voilà. Voilà. Alors, on va retourner à Marion Gamme. Merci le site du Point qui m'a fait le truc de pourri là. Alors, petite vidéo. On va peut-être un extrait de Scène de ménage, rapide.
J'aurais dû aller sur YouTube direct.
Il y en a des vidéos. Oh, il y en a des conneries sur. Le truc, les peopleries, mais sur YouTube plutôt. Hein. C'est fou ça. Oh, les, vous avez vu les articles? Oh là là, c'est dingue. Sur Internet, vous avez quand même des dos basses d'infos quoi. Oh là là, c'est catastrophique quoi. Voilà. Le salaire, on s'en fiche du salaire. Il y en a des. Il y en a. Je vais jamais trouver. Liliane José, j'aime bien aussi cela. Comment il s'appelait déjà? C'est Huguette. On va taper Huguette plutôt. Mais plutôt Huguette. Voilà. Ah.
Oh, j'ai croisé Monsieur Dulac dans l'ascenseur. Il montait jusque sur le toit de l'immeuble.
Dulac. Attends, c'est pas le mec qui s'est fait larguer par sa femme?
Oui, celui-là, oui. J'ai un mauvais pressentiment, hein. J'ai l'impression qu'il va sauter.
Oh. Alors, s'il a ses couillons pour pleurer le départ de sa femme, qu'il saute, hein. J'en ai rien à foutre.
Raymond, on est garé en bas de l'immeuble. S'il saute sur notre voiture...
Oh putain, t'as raison. Oh la vache, où sont les clés?
Dans l'entrée, comme d'habitude. Garde-toi au bout de la rue, hein. On n'est pas à l'abri des éclaboussures. Oh le con.
Ah, c'est bon quand même. C'est quand même très bon. C'est quand même très bon.
Oh la conne. Oh la conne.
Là je t'ai fait peur. Ah, dis pas le contraire. Je t'ai vu sursauter.
Et t'as pas besoin de te planquer pour me foutre les jetons. J'ai qu'à regarder ta tronche.
Oh le bon que t'as fait, je le crois pas. C'était à mourir de rire.
Bah te gêne pas, meurs.
Allez gaga le psaf.
Un petit dernier pour le plaisir. Un petit dernier pour le plaisir. Allez. Et après on reprend l'info. Je veux pas la pub moi. C'est bon le petit biscuit sec comme ça.
Jouer avec les noirs.
Hein? Ah, oh, merci, Gaguette. Alors, voilà.
Dame!
Et au revoir à madame, du coup, Marion Game, à la grande dame que, dont on vient d'apprendre le décès. Voilà. J'ai une scène de ménage qui est partie à fond là. Voilà. Bon, il y aura peut-être des articles sympas de dimanche peut-être matin pour évoquer sa mémoire et sa carrière. Donc surveillons donc cette visite de Charles III en France qui commence dimanche soir, qui pourrait être un petit peu compliqué. Ce vous 00, merci pour le 19e mois d'abonnement. Anatole, merci pour le 3e mois d'abonnement. Est-ce que je me cherche un petit café? Elle faisait. Vous êtes plusieurs à me dire qu'elle faisait la voix de Loïs dans Malcolm. Putain, j'ai pas la ref. Putain, je suis vieux. Loïs. Malcolm. Merde. Je l'ai pas. Loïs. La voix de la mère de Malcolm. C'est la maman de Malcolm. Je sais pas ce que c'est Malcolm, bordel. C'est quoi Malcolm? C'est quoi Malcolm? Oh, j'ai honte. La meilleure série de tous les temps. Merde, je connais pas. C'est une série. Malcolm, série télévisée. C'est quoi? Je connais pas cette série. J'ai honte. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux. C'est, on m'insulte dans le chat. 2000. J'étais né. Malcolm est une série télévisée américaine de 151 épisodes. Diffusée entre 2000 et 2006. Ok. La série raconte le quotidien de la famille de Malcolm, troisième fils d'une fratrie de quatre garçons. qui vit dans une famille américaine moyenne composée de Lois, sa mère autoritaire et déjantée, de Hal, son père immature employé de bureau, n'ayant aucun sens des responsabilités, de ses trois frères et d'un cinquième fils. Voilà. L'humour caustique de la série repose principalement sur la vie de famille. Bon ben, ok, let's go, ok. Série Malcolm, je ne connais pas, bordel. Je ne connais pas, moi, ça. Je ne connais pas, ça, moi. C'est bien ? Ça t'indique que c'est la meilleure série de tous les temps. Ah, sa tête me dit quelque chose. Ah oui, mais j'étais trop vieux, déjà. J'étais trop vieux, je devais déjà bosser, en fait. Oui, 2000, je travaillais. Ok. Ah, c'est ça ! D'accord. C'est drôle.
Sois raisonnable. Arrête les frais et téléphone enfin au réparateur.
Je refuse de gaspiller de l'argent alors que je...
C'est la même voix ? C'est la voix de Marion Gamme qu'on évoquait à l'instant ?
Je suis tout à fait capable. Io non sapevo la chiesa, però è che tu mi dici
la verità.
Tu mi dici che tu la quieres, però io la quiero. Io non le puoi aiutare. Io non la puoi negare. Puoi matarmi e la
sendata. Bastardo! Wow! Bah dis donc, t'es tombé du lit.
Oui, il n'y a pas d'heure pour les braves.
Attends une minute. T'as pas dormi de la nuit, c'est ça?
Non, tu as raison, j'ai regardé des bêtises toute la nuit, des feuilletons étrangers, même pas sous-titrés. Au revoir, ma chérie.
Tant pis. C'est pas grave, j'en mangerai pas.
Non, je vous laisse ma part. Tu partageras avec Dewey.
Oh, c'est pas juste pour Dewey. Le mieux, c'est de les garder pour les garçons.
En vrai, c'était drôle ou pas?
Faut s'alerte.
Oh. Yes. Ben voilà, maintenant il y a de l'eau chaude aux deux robinets.
Quoi? Ben, c'est pas si mal que ça. Toi qui te plains de manquer d'eau chaude.
Est-ce qu'un jour on pourrait faire appel à un vrai professionnel?
Lois, rien qu'en déplacement, il y en aurait pour $60. Je sais que mon travail n'est pas parfait, mais grâce à moi, on économise notre argent et le travail est fait. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, on a sonné.
Ok. Oh, c'est naze.
Bon, vous semblez me dire que c'est très, très, très drôle.
Oui, je sais. Je voudrais qu'on ait l'âge de conduire. Comme ça, on s'ennuierait plus.
Ah, je voudrais être indépendant pour...
Ouais. Ok, alors je veux bien vous croire. Il faut regarder ça en famille, me dit King Julian. J'ai regardé 6 fois la série, me dit Pierrel. Ok. C'est excellent. Ok. C'est drôle à tous les... Ouais, ça a vieilli. Ouais, ouais. Ok, d'accord, je vous crois. Ok, ça a l'air vraiment super. Je vais vite rattraper mon retard. Merci. Hein, vraiment, je rêve de retrouver du temps dans ma vie pour pouvoir regarder Malcolm, quoi. Dès que j'ai du temps. Dès que j'ai du temps. Vraiment. C'est peut-être les extraits qui sont pas terribles. Merci beaucoup en tout cas. Original Pimous, merci pour l'abonnement offert à Maori. C'est vous, merci pour le 19e mois d'abonnement. Anatole 11, merci pour le 3e mois d'abonnement. Tout ça, c'est pour le studio, c'est pour le loyer. Oh non, il y a un truc, j'arrive sur une info dramatique. Non, obligé de faire une petite pause café. Ça fait 1h48 qu'on discute. Comme certains en ce moment, j'ai les cordes vocales qui piquent, j'ai la gorge qui pique parce qu'il y a du pollen. Je vais aller me faire un petit café ou peut-être un. Oh non! Peut-être faire un thé matcha avec du miel. Voilà. Donc, les amis, avant de partir sur une info qui est un petit peu... Voilà. Plein d'autres infos encore. On a pas eu Libération, on n'a pas eu La Croix aussi sur les manifs qui vont arriver autour des méga-bassines. Là, c'est hyper intéressant. Donc, je vous retrouve dans 3 minutes. Ok ? Donc, je vais me faire un petit thé avec du miel. Parce que ça pique un petit peu, là. Et puis, on se retrouve pour parler de tout ça. Merci d'être aussi nombreux ce matin, c'est super gentil. Je vous mets une petite pause. Je vous mets un peu de musique, les abonnés. Une petite pub à ceux qui sont pas abonnés. Ça, c'est pour payer la box internet et l'électricité et la taxe d'habitation. Ah non, on a supprimé la taxe d'habitation, c'est cool. Du petit studio de stream dont je prends les clés lundi. A tout de suite, bande de belles personnes. Breaking falls and taking damage. Sorry for my broken bones. Let you into darker places. Showed no
my weak spots on my face. It's not my book, some afraid of pages. Blame myself, I should have known.
2, 1, Crumbling, c'est le titre. Grumster, Underwhelmed, c'est le groupe, manifestement, c'est vraiment sympa, tellement sympa qu'on va se recaler cette musique. Ce sera la musique du Raid tout à l'heure, d'ici quoi, une heure et demie quoi, on est ensemble pour encore 1h30. Ça va vous on est dans la gourmandise là. Hein. On est sur la gourmandise, on est sur le sucré, on est sur le sucre, on est sur la rondeur, j'ai pas trouvé de miel, je me suis fait un thé matcha, ok, avec du lait, parce que je mets du lait partout, c'est peut-être pas l'idée du siècle d'ailleurs. Avec du sucre, ça donne ça. C'est très bizarre. C'est, voilà, c'est un thé matcha avec du sucre et du lait. C'est très bizarre. C'est que moi, pour boire des trucs comme ça, quoi. Mais en vrai, j'aime bien, moi. Voilà. On est sur la gourmandise, on est sur le sucré, on est sur la rondeur, on est sur le plaisir, on est sur les papilles. Hein, on est sur le titillage de papilles. Voilà, on fait ça le matin. Voilà. Arrêtez de faire du bruit quand vous buvez, c'est dégueulasse. Oh! Sérieux quoi? Merci Agescios pour le Prime. Damitra, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Et on vient de m'inviter à l'Assemblée nationale. Sur la route de la cuisine, je lisais mes SMS pour voir si j'avais des propositions totalement indécentes de boulot pour la rentrée prochaine. Je me félicitais des audiences de France Info. On a cartonné la matinale hier, ça c'est super. Et je lisais un SMS. Oui, de l'Assemblée nationale, de quelqu'un qui travaille avec la présidente de l'Assemblée nationale, qui me demande si je veux participer mercredi soir à 20h, donc à l'Assemblée, à un débat public sur la jeunesse. La jeunesse. Demandez aux jeunes plutôt de inviter des jeunes. Ne demandez pas aux vieux ce que les jeunes ont dans la tête. Invitez des jeunes. Voilà. Il y aura peut-être des jeunes. En vrai, je rigole, je trouve ça intéressant, je trouve ça sympa. Je n'ai jamais été invité à l'hôtel de la Cé. Il paraît que c'est très charmant. Il paraît que le chef de l'hôtel de la Cé est vraiment formidable. Notamment son travail sur les textures, peut-être qu'il y aura petit buffet. Tiens, je vais aller croquer vos impôts. Tiens, je vais faire ça. Donc, ouais, en vrai, 20h, ouais, alors ça, je vais pas dormir beaucoup. Ouais, mais ouais. Non, mais en vrai, je pense qu'il faut, effectivement, il faut parler de la jeunesse aujourd'hui. Donc, ouais, peut-être qu'il y a ce truc. Ouais. J'espère qu'ils ont invité Salomé Saké d'ailleurs. Peut-être que Salomé Saké est invité. Salomé Saké qu'on reçoit ce soir. Qui vient d'écrire ce livre et qui est génial, que j'ai lu ce matin, que je vous recommande, qui se lit très très bien. Sois jeune et tais-toi. Voilà. Je suis sûr que Salomé est invité. C'est l'invité, j'y vais. Voilà. Ouais, je vous tiens au courant. Ah, merci Pixolo pour cet abonnement. Merci Didlo Gamer. Moi aussi, je serai un gamer un jour. Merci pour ce Prime. Merci beaucoup. Je l'ai long une matinée. Oh, je lis vite. Je lis très vite. Très vite, je lis très très vite. Ça c'est Salomé. Hop, je lis très très vite. Alors comment Samuel lit? Sois jeune et tais-toi. Salomé Saké, oui. Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Je lis comme ça en vrai. Très intéressant. Oui. Les premiers mots d'un livre sont toujours très importants. Connasse, crève et fais pas chier. Ça c'est les derniers mots. Les premiers. Les derniers sont très importants aussi. Je vais à la fin. Voilà. Ça commence bien. Ça. Voilà. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez vous adresser à vos enfants et vos petits-enfants à partir de maintenant. C'est la façon dont vous saurez leur tendre la main et saisir la leur. Voilà. Quand ça commence bien comme ça et que ça finit bien, voilà. En vrai, je l'ai lu. Regardez, il y a plein de petites, des petits trucs. J'ai corné des pages. J'ai corné des pages pour des passages qui m'intéressaient. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Pourquoi je suis devenu journaliste? J'ai aucun mérite. En fait, j'adore lire depuis toujours, c'est une passion. Tout ce qui est écrit, ce qu'il y a sur les paquets de céréales, ce qu'il y a dans les livres, ce qu'il y a partout. Voilà. Et je lis très vite. Voilà. C'est mon seul talent, je ne sais rien faire d'autre. C'est le seul truc que je sais faire. Je ne sais rien faire de bien. On m'annonce que la visite du roi Charles III est reportée, si c'est vrai. On est en plein dedans, on vient d'en parler. Voilà. Je ne sais rien faire d'autre que de lire vite. Je lis très vite. Voilà. C'est mon seul talent, c'est mon seul super pouvoir. Et donc, voilà, donc je lis assez vite. Donc j'ai lu ça ce matin, en plus d'avoir lu les journaux. On vient de me dire... Je range le livre de Salomé, parce que j'en parlerai ce soir avec elle. Que, on en parlait à l'instant, regardez, dans Le Parisien, la visite du roi Charles III est reportée. C'est énorme. On vient de se demander si le contexte en France de tension autour de la réforme des retraites allait conduire au report de la visite. On n'était même pas sur le report. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? On était sur l'aménagement et peut-être le déplacement du dîner au château de Versailles. Est-ce qu'on a une confirmation de la Est-ce que c'est une info de chat ? Est-ce que c'est une info du monde.fr ? Alors je cherche une source qui me semble de qualité. Vous avez une source de qualité ? Vous avez une source de qualité ? On me dit un communiqué du service presse de l'Elysée. Ok, effectivement. Qui est Nicolas ? Ok, donc ça me semble pas mal. Je vois Nicolas Bérode, journaliste parisien, qui publie un communiqué que vient de donner l'Elysée. Compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites, l'Elysée annonce donc la visite reportée du roi Charles III, reprogrammée dans les meilleurs délais. Voici le communiqué. Vous demandiez à quoi ressemblait un communiqué de l'Elysée, c'est ça. Voilà. Comme je suis un peu maniaque, je suis quand même allé vérifier, trouver une source ou deux en plus. Pour l'instant, on a juste un tweet d'un journaliste sûrement très rigoureux, mais on fait attention. Voici, ok, c'est intéressant quand même. Alors nous, on avait préparé une spéciale lundi matin sur France Info. Bah, du coup, on va se mettre notre spéciale dans la poche. Charles III, je vais aller... Comment il fait Papy Sam ? Pour vérifier un petit peu les infos. Il va sur les sites qu'il aime bien, les sites des médias qu'il trouve relativement rigoureux, comme Le Monde. Hein, on va sur lemonde.fr, hein, par exemple. On va aller sur franceinfo.fr aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un urgent quelque part ? Là, voilà. La mort de Marion Gamme, elle est là. Oh, il y a du nouveau sur Twitter. Twitter annonce la fin des vieilles certifications. Oh, ma certif va disparaître. Oh les enfoirés! Symbolisé par un badge bleu avec, avec une coche blanche. Moi j'ai une ancienne certif. Hein, c'est le certif lié aux personnalités. J'ai pas payé ma certif. Ma certif elle est là, elle va disparaître donc. Hop, si je clique ici, voilà, compte certifié. Voilà. Donc j'apprends par Le Monde que ça va disparaître. Symbolisé par un badge bleu avec une coche blanche, c'est moi. La certification permettait à l'origine de reconnaître les comptes officiels de personnalités publiques. Elle sera bientôt l'apanage des utilisateurs ayant souscrit un abonnement payant Twitter Blue. Les enfoirés ! Bande de bâtards. Ouais. Alors l'article du Monde rappelle que des talibans, que des néo-nazis ont pu voir leur compte certifié en payant l'abonnement. Formidable, bravo ! Bravo, 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 bravo Elon Musk. Bravo, formidable. Quelle qualité ! Fantastique, fantastique. Donc ça ne vaut plus rien, cette certification, c'est formidable. Ok. Oh, les coquinous. Ah là là là. Alors, Twitter a également lancé une offre de certification destinée aux entreprises, aux institutions, pour la bagatelle de 950 euros par mois. Elle permet d'obtenir les mêmes avantages que Twitter Blue, ainsi qu'un badge de vérification doré, the golden badge. Elon Musk a d'ailleurs précisé aujourd'hui que toute personne en passe de perdre une ancienne certification, comme moi, mais qui est affilié à une organisation ayant, elle, un nouvel abonnement valable, verra son compte automatiquement vérifié. Ah, mais moi, je suis affilié à France Télévisions. Je suis affilié à une entreprise qui, d'accord. Bon, on revient à Charles III. C'est valide. Est-ce que Le Monde confirme le report de visite ? C'est bizarre que ce soit pas en une, ça. Alors, on va aller voir franceinfo.fr. Voilà, c'est assez carré. On va voir. Alors, on devrait avoir ça en gros tout en haut. Hein. Voilà. Vous le voyez, vous ? Je l'ai pas, hein ? Je l'ai pas. Ça devrait être en... Ah, ici. Ça y est. Ok. Dans le live, donc c'est les dernières infos ici. Ok. Ok. Le communiqué d'Elysée. Ok, c'est confirmé. Effectivement, donc... le report de la visite de Charles III. Vous voyez bien que eh bien, la mobilisation, le mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites a de sacrées conséquences, y compris au niveau diplomatique. Ok, et on me dit que la BBC confirme à l'instant. Ok, eh bien, on a bien fait d'en parler ce matin. On a vécu l'actualité, là, pour le coup, en direct, et du coup, vous avez toutes les infos, toutes les refs pour comprendre le pourquoi, le comment de ce report. En vrai, il y a procureur LFI qui dit Macron est foutu dans le chat. Alors, c'est allé un peu vite en besogne, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un coup dur. C'est quand même un coup dur pour le chef de l'État. On a une visite au sommet. C'est important, hein. Quoi qu'on pense de la monarchie britannique, c'est la première visite officielle du roi Charles III en France. Voilà. Donc pour les relations franco-britanniques, et puis pour le lustre même, le dîner au château de Versailles, les Champs-Élysées, les chevaux, les gardes républicains, tout ça, c'est un truc, quoi. Ça demandait de l'organisation, du travail. Pour que le truc soit reporté, c'est pas faux. Il y a Mazev Youyou qui dit c'est un peu un avis de faiblesse. Bah oui, au niveau international, ouais. Pas très bon. Pas très bon. Pas très bon. Ouais. Alors, j'arrête de dire des bêtises et je redeviens sérieux pour aborder avec vous un truc super triste. Très triste. Ce que l'on sait, je suis sûr que vous avez entendu parler de cette histoire. On est toujours dans Le Parisien ce matin, qui a des pages plutôt intéressantes ce matin. Ce qu'on sait de la mort d'un lycéen pendant une épreuve de bac à Lille. Ce jeune homme, il passait une épreuve du bac, vous savez. Et il est décédé pendant l'examen, quoi. Et il y a une grosse polémique sur le comportement des adultes, des surveillants, pendant l'épreuve. Quelques jours que je surveille cette histoire, je vous ai trouvé un article. Ah, certains n'étaient pas au courant. L'histoire, elle est folle. Elle est super triste. Il s'appelait, puisqu'on en parle au passé de ce jeune homme, Nadir Bekadour. Il est décédé mardi. Il est mort mardi après un malaise cardiaque, alors que des témoignages mettent en cause les surveillants de l'examen. L'éducation nationale a saisi l'inspection générale. Il y a une enquête qui est en cours. On va la suivre, cette affaire, on va la surveiller. Que s'est-il passé dans la salle d'examen du lycée Gaston Berger de Lille mardi? Un lycéen atteint de problèmes au cœur est mort après un malaise cardiaque survenu en pleine épreuve du baccalauréat. Certains de ses camarades ont dénoncé le manque de réactivité des adultes qui encadraient l'examen. Si c'est le cas, c'est gravissime. Le rectorat assure de son côté que le personnel sur place a agi correctement. On fait le point, vous avez deux thèses en présence qui s'opposent. Mardi, 14h, Nadir Bekadour et quelques 80 autres lycéens ont été réunis dans une salle d'examen du lycée Gaston Berger pour passer l'épreuve de spécialité d'économie du bac STMG. 3-4 minutes seulement après la distribution des copies, Nadir, 19 ans ce gamin, s'est effondré, a témoigné une élève qui était juste derrière lui. Après l'arrivée des secours, le jeune homme a été transféré au CHU de Lille où il est décédé quelques heures plus tard. Le jeune homme venait de fêter ses 19 ans. Originaire d'Oran, en Algérie, il est arrivé avec sa maman à Ronchin, dans la métropole de Lille, en 2007, pour être soigné d'une grave cardiopathie. Il était depuis suivi par le CHRU de Lille. En 2012, il avait frôlé la mort après une grave crise. Et la pose d'un pacemaker, ce jeune homme avait un pacemaker, avait permis de stabiliser son état. France Bleu Nord, nos confrères de France Bleu Nord, rapporte que certains lycéens présents dans la salle au moment du malaise ont décrit une scène de chaos et dénoncé le manque de réactivité des 8 adultes, il y avait du monde quand même, qui étaient en charge de la surveillance. Selon le témoignage d'une lycéenne, un ami de Nadir a crié plusieurs fois qu'il fallait l'aider, qu'il avait un pacemaker, donc il avait l'info, il donne l'info, mais ils nous ont interdit de bouger, alors que des élèves voulaient se porter volontaires pour l'aider. Les pompiers seraient arrivés 20 minutes après le malaise. Un autre élève a expliqué à La Voix du Nord, le journal dans la région de Lille, hein, que les élèves se levaient pour aller voir ce qu'il avait, mais on leur disait de s'asseoir, de continuer le bac. Un adulte passait dans les rangs pour faire signer la feuille de présence. La feuille de présence. Sachez que l'épreuve a été annulée au final, quoi. Donc vous avez cette scène surréaliste d'un adulte, qui continue à faire signer la feuille de présence alors que le gamin, il est par terre. Il ne bouge plus, il est en train de devenir bleu, violet, vont rapporter des témoins, quoi. Il ne parlait plus, il commençait à devenir bleu, commente un élève. Une élève s'est levée et l'a mis en PLS, en position latérale de sécurité. C'est une élève qui est en train de passer le bac, qui s'est levée et qui l'a mis en position de PLS. Ça n'est pas un des 8 adultes. Bêtant de cette histoire. Ce qui nous a choqué, disent les jeunes qui étaient là, c'est qu'il a été laissé seul un moment par terre. Le rectorat de Lille assure que les surveillants ont fait ce qui était nécessaire, ça c'est la thèse officielle. Nadir est tombé sur le côté, une élève à proximité l'a placé en position latérale de sécurité. Donc le rectorat confirme quand même que c'est une lycéenne qui s'en est occupée le plus rapidement possible. Les personnes qui encadraient l'examen ont tout de suite fait venir la CPE qui se trouvait dans le couloir et celle-ci a immédiatement appelé les secours. Je ne juge pas, je n'anticipe pas sur l'enquête, mais j'ai l'impression que tes réactions sont pas très rapides, quoi. Les personnes qui encadraient l'examen, on parle de 8 adultes, ont fait venir la CPE qui se trouve dans le couloir. Mec, tu vois un jeune qui fait un malaise, qui tombe, qui ne bouge plus, t'appelles les secours. Tu t'appelles pas la CPE. Je suis débile ou quoi? Je dis une connerie? Ah, il y a ça sur la fun qui me dit c'est la procédure. Alors je vais être très vulgaire. Fuck la procédure, quoi. Fuck la procédure. Mais enfin. La procédure, c'est pas une insulte à l'intelligence des gens quand même. Ou au bon sens. Pardon, hein. Je me prononce un peu là, je suis un peu choqué. Après, j'étais pas sur place. Mais les jeunes semblent témoigner qu'il y a un truc qui allait pas, quoi. Donc la CPE est appelée et la CPE appelle les secours. Il a été demandé aux élèves de rester à leur place, confirme le rectorat, mais c'était pour éviter tout attroupement autour de Nadir, assure-t-il. Rectorat qui assure que les surveillants sont restés à proximité de l'élève jusqu'à l'arrivée des secours. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a décidé de lancer mercredi une enquête administrative. Écoutez, je n'étais pas sur place, je n'ai pas vu, je veux pas juger, mais il y a un truc qui va pas quand même. Après que les secours mettent 20 minutes à arriver, en soi, certains me disent que c'est pas choquant, c'est vrai. C'est déjà pas très très long. Mais Théo se dit dans le chat, est-ce qu'il n'y a pas de défibrillateur dans les écoles normalement? Minerval me dit, je suis enseignante, c'est pas du tout la procédure. C'est vrai. Il y a Tritri qui dit en entreprise, tu appelles toujours le PC sécurité avant d'appeler les secours. Ça, je l'ai vu, ça. Ouais. Mais je trouve pas ça terrible, en fait. Moi, j'ai déjà vu des malaises comme ça de gens au boulot. On appelle le PC sécurité qui vient, qui au bout de 10 minutes décide d'appeler les secours. Alors, je comprends les procédures, mais toutes les fois où j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on branle, quoi. Première règle du secourisme, alerter ou contacter les secours avant tout, dit Beng Beng, quoi. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc qui va pas quand même là. D'après les témoignages d'élèves, ça je l'ai vu, c'est à vérifier, mais je l'ai vu effectivement, à vérifier. Guylaine nous dit, d'après les témoignages d'élèves, les adultes présents sur place leur ont dit que s'ils se levaient et partaient, slash appelaient les secours, c'était un abandon du bac. Certains ont dit ça. Non mais si c'est ça, c'est... Pfff. Ronan nous rappelle les trois mots importants en matière de secourisme. Alerter, protéger, secourir. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait là. Hein. Alors, Tardigrade dit, il ne faut pas juger trop vite et sans savoir, la réaction de chacun est très différente en fonction des gens. On est d'accord. C'est pour ça que je reste prudent. Mais on a quand même plusieurs témoignages qui décrivent une situation où il y a un manque de réactivité quand même de 8 adultes, pas d'une personne. Je sais pas. Il y a un truc que je trouve un peu bizarre, quoi. Ouais. Et l'épreuve a été annulée. Donc ils vont la repasser, quoi. On va suivre cette histoire. Moi, sur cette histoire, ça fait plusieurs jours que je suivais cette actu. Je trouve que l'article du Parisien est carré et donne bien les, on va dire les infos, les deux thèses en présence, puisque manifestement, du côté des rectorats, c'est pas ce qu'on dit. Bon, pensez en tout cas, soutien à la famille de ce jeune homme voilà, qui l'a vu partir, passer son bac et il est pas revenu. C'est super chaud. Bon. J'ai pas du tout envie de faire l'horoscope derrière ça. On va pas rigoler. On va pas se taper sur le ventre alors qu'on vient d'évoquer la mémoire de ce jeune homme. Donc on fera l'horoscope plus tard et on va revenir à la réforme des retraites avec Libération. Pas un numéro spécial, mais plusieurs pages ce matin à ce qui s'est passé hier au niveau de la mobilisation, des manifs et aussi des violences. What the fuck, merci pour le troisième mois d'abonnement. La République en masse. Alors, tout à l'heure, vous vous êtes un peu moqué, vous avez eu raison. La République en masse, moi j'ai vu un jeu de mots avec la République en NAS. Parce que la NAS, cette technique, vous savez, de contrôle des foules controversée, utilisée par les forces de l'ordre actuellement dans les manifs. Et puis vous m'avez dit, non Sam, c'est plutôt un jeu de mots avec la République en marche. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Alors peut-être que c'est un jeu de mots entre les deux. C'est-à-dire que c'est un super méga jeu de mots de Gaude, quoi. Donc, en tout cas, c'est le titre de Libération, La République en masse, référence bien au nombre très important de manifestants, 3,5 millions selon la CGT, 1,08 million, je crois, je ne sais plus, selon la police. On est sur le plus gros score de mobilisation de ces journées de mobilisation, hein, on égale la mobilisation du 7 mars. Loin de l'essoufflement sur lequel misait l'exécutif, donc ça ne s'essouffle pas du tout, hein. La mobilisation de jeudi a vu déferler dans toute la France un nombre de manifestants en hausse. 1,08 million contre 3,5 millions au ras de feu valide. Aversion. Pourquoi cet édito aversion de Dove Alphonse? Pourquoi ce mot aversion? Lisons un petit peu pour comprendre. La 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a donc de nouveau fait le plein de manifestants, donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Loin de s'essouffler, les protestations semblent attirer un nouveau public, notamment de nombreux jeunes. Mais leur colère n'est plus dirigée uniquement contre cette réforme qu'ils jugent injuste. C'est, estime Libération, désormais le président de la République qui est la cible des slogans et des pancartes. Nos journalistes ont pu constater, dit Libé, l'aversion, le ressentiment. L'aversion, on est entre ressentiment et haine, hein, quelque chose d'assez fort. Hein. L'aversion qu'inspire aux manifestants la personnalité d'Emmanuel Macron une semaine après son choix du 49-3 et 24 heures après son interview, jugée catastrophique par Libération au journal télévisé de 13h. L'intervention du chef de l'État qui a aggravé le climat social, écrit encore Dove Alphon dans son édito. Autre facteur majeur de la crise, la violence policière contre les manifestants, écrit ce matin Libé, que le déni gouvernemental ne peut que rendre systématique et impuni. Selon un sondage Odoxa, publié par le Figaro, 83% des Français s'attendent à ce que les violences et débordements s'aggravent dans les jours à venir. 70% jugeant le gouvernement coupable d'avoir provoqué cette situation. Voilà pour l'édito de Valfond, Cosmic Squat. Merci beaucoup pour le 17e mois. Dans Libé, je vous ai mis de côté aussi, puisque tout à l'heure on avait l'article du Parisien sur les violences, l'interview d'un monsieur qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle Patrick Baudouin, et qui lui trouve que dans cette tentative de comprendre pourquoi ces violences, eh bien, le responsable c'est plutôt du côté du gouvernement plutôt que de la jeunesse. Bon, c'est son avis, on va le lire. Question de Libération, mercredi le président a expliqué que certains manifestants n'avaient pas de légitimité, ce sont les mots du chef de l'État. Qu'est-ce que vous inspire cette position? Réponse du président de la Ligue des droits de l'homme. Elle m'inquiète beaucoup, cette position, parce qu'elle traduit une incompréhension complète de ce qui se passe dans le pays. Le président de la République semble sourd et aveugle, hors sol. Emmanuel Macron parle de légitimité institutionnelle, hein, celle qui vient des institutions, celle qui vient des élections, mais il oublie la légitimité populaire. Une loi peut être légale en apparence, notamment quand elle passe avec le 49-3, mais elle peut être considérée comme illégitime par le peuple. Question de Libé. Emmanuel Macron différencie les manifestations encadrées et les manifestations spontanées. Est-ce que ça vous inquiète? Réponse du président de la Ligue des droits de l'homme. Rappelons un élément de droit. Les manifestations ou rassemblements spontanés, dès lors qu'ils ne sont pas interdits, ne sont pas pénalement répréhensibles. Surtout, le président ferait bien de s'interroger sur cette transformation de la teneur des manifestations entre celles qui ont lieu jusqu'au 16 mars, jour du recours au 49-3, et celles qui ont suivi. Ces manifestations spontanées émanent d'une population jeune. Cette jeunesse est dans la rue parce qu'elle se sent méprisée, estime ce monsieur. Elle constate que le pouvoir politique juge inutile de répondre aux manifestations organisées. Emmanuel Macron ne semble pas comprendre cette étape de révolte. Étape de révolte qui avait pourtant été annoncée, selon ce monsieur, par qui ? Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui avait dit, il y a des semaines déjà, attention au gouvernement, entendez-nous les syndicats, parce que sinon, eh bien, ça va provoquer peut-être de la violence. C'est vrai que Laurent Berger l'avait annoncé. Laurent Berger qui était l'invité de Backseat hier soir, chez l'ami Jean Massier qui est ce soir à la maison. Vous avez vu Backseat hier soir ? Vous avez vu ? C'était bien ? Avec Laurent Berger ou pas ? C'était bien ? On me dit oui, les motos me disent oui. Merci Excited War pour le raid, merci beaucoup, merci à toi. Merci la cantine. Comment vas-tu la cantine ? Merci pour le 6e mois d'abonnement, super gentil. C'était trop bien, Laurent Berger hier dans Backseat, hier soir c'était super. J'ai regardé un peu, le chat était un peu dur avec lui, un petit peu langue de bois, un peu boring Laurent Berger. J'allais vous demander l'audience, 24 viewers, bah, pop, 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 bravo, je suis super content pour Jean. C'est la récompense d'un excellent travail, c'est cool. Ok, super, vous avez apprécié manifestement. Top, top, top. On continue l'interview. Libé dit Patrick Baudouin, vous disiez que ces manifestations, même spontanées, ne sont pas illégales. Or, on a constaté beaucoup d'arrestations de garde à vue, notamment de jeunes. Pour essayer, répond-il, de briser ce mouvement social pleinement légitime, le pouvoir a fait le choix d'une escalade répressive. Cela se traduit par toute une série de violences policières. On se croirait revenu aux méthodes de maintien de l'ordre qui ont prévalu pendant la crise des Gilets jaunes, retour des NAS, jugées illégales par le Conseil d'État, de grenades de désencerclement, usage parfaitement abusif et excessif de gaz lacrymogène ou encore emploi de policiers non formés au maintien de l'ordre avec un usage de la matraque tout à fait disproportionné. Par ailleurs, les interpellations préventives avant qu'il se passe quelque chose, portent très sévèrement atteinte à la liberté de manifester. On constate aussi des cas de violences gratuites et attentatoires à la dignité de personnes comme à Nantes, comme à Lille. Ça fait beaucoup, nous dit le président de la Ligue des droits de l'homme. Sur l'histoire de la NAS, parce qu'il y a débat, je vois que tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que les NAS sont interdites par le Conseil d'État ? Ou est-ce que c'est un peu plus subtil que ça ? J'ai cru voir que c'était peut-être un peu plus compliqué. NAS, on a le temps, on est sur Twitch, on a le temps de chercher, de comprendre. Voilà, strictement réglementé, exactement. Voilà, me dit Guylaine et d'autres, hein, c'est un peu plus subtil, effectivement. J'ai un article du Monde, bonne source, du 10 juin 2021 sur cette décision du Conseil d'État sur le recours aux NAS par les forces de l'ordre. Le Conseil d'État, donc, annule 4 points du schéma national de maintien de l'ordre, donc sans doute cette histoire. Parmi, justement, elle, la très sensible technique des NAS utilisée pour encercler des groupes de manifestants. Si cette technique peut s'avérer nécessaire dans certaines circonstances précises, donc, ok, ça n'est pas interdit, tu vois, il y a Satrape Mandragora qui écrit, c'est interdit. Non, en fait. Dans certaines circonstances précises, c'est autorisé, dit le Conseil d'État. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, en fait. Si cette technique peut s'avérer nécessaire dans certaines circonstances précises, elle est susceptible d'affecter définitivement la liberté de manifester et de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir. Ok. Ok. Alors après, la question de savoir si est-ce que les conditions actuellement dans les manifs sont réunis pour que la NAS soit légale, ça c'est autre chose. Acuman Cohen dit, d'après Claire sur Backseat hier, les conditions n'y étaient pas, par exemple. Voilà. Alors la question, c'est quelles circonstances, parce que ça c'est pas précisé par l'article du Monde. Ouais, c'est un peu ouvert à tous les abus, dit Neurose, je vois un petit peu raison. Ok, allez, on retourne à l'article de Libé. Merci beaucoup, merci. Je reviens à l'interview du président de la Ligue des droits de l'homme, qui continue. Nous ne sommes pas de ceux qui tapent, dit-il de manière généralisée, sur la police. Nous disons simplement qu'il y a des dérives de la part de certains policiers. Ça, je pense que c'est important de le souligner aussi. Et que la responsabilité première est celle de l'exécutif. C'est lui qui a fait le choix de recourir à nouveau à la répression dans les manifestations après les avoir provoquées par un comportement méprisant de déni de démocratie. Donc là, je pense que c'est une allusion au 49.3 et peut-être aussi à l'interview télévisée du chef de l'État. Donc Patrick Baudouin, lui, il parle du comportement de certains policiers et de la responsabilité de l'exécutif. Est-ce inquiétant, enfin, sur l'état de notre démocratie ? Je n'ai jamais été aussi inquiet, dit-il. Nous dansons sur un volcan. Il y a une rage qui remet en cause le fonctionnement de l'État et conduit à dénigrer le Parlement, la démocratie, considérée comme une simple façade illusoire, je sais que certains le pensent. Le pouvoir actuel ne trace aucune perspective crédible et apaisante, et de l'autre côté, on ne voit pas beaucoup d'alternatives, hormis celle du Rassemblement national, qui, d'une façon très habile, alors que c'est une grande supercherie, semble apparaître comme une force susceptible de constituer une alternative. Voilà, pour ce, le regard du président de la Ligue des droits de l'homme sur cette séquence. Alors, on va un peu plus loin avec Libération. Oh, j'ai la gorge qui pique, c'est chiant les poèmes. On va un peu plus loin pour se demander avec Libération si c'est finito, si la réforme, puisqu'elle a été adoptée par 49.3, est-ce qu'elle va s'appliquer ou est-ce qu'elle peut encore être annulée, cette réforme. Face à la réforme, encore quelques recours, écrit ce matin Libé. Pour rier l'entrée en vigueur du texte, les espoirs de ses opposants reposent sur la poursuite du mouvement social, les manifestations qui se poursuivent et qui pourraient faire reculer ou pas l'exécutif, la décision à venir du Conseil constitutionnel, censure partielle ou totale, ou encore l'hypothétique, l'organisation d'un référendum, donc ça, hypothétique, Libération va vous expliquer que c'est mal parti quand même. Let's go. Catherine Perret, qui est la négociatrice retraite de la CGT, pense qu'on n'a jamais été aussi proche de la victoire. Vous avez des syndicalistes qui pensent que le texte peut encore être reculé. Merci à ceux qui me disent que la visite de Charles III a été repoussée, mais on en a déjà parlé assez longuement tout à l'heure. Merci de nous rejoindre en tout cas. Dans ces conditions, pas question de s'arrêter, disent les syndicalistes, d'autant que l'arrivée massive des jeunes dans la mobilisation, donc manifestement il se passe quelque chose quand même, avec des blocages d'établissements, avec une présence impressionnante dans les défilés, pourrait, espèrent en tout cas les syndicats, faire entrer le mouvement dans une nouvelle phase. En général, quand les jeunes rentrent dans un mouvement social, le gouvernement, l'exécutif, doit et peut s'inquiéter. L'intersyndicale, réunissant 8 organisations de salariés, 5 de la jeunesse, a donc annoncé jeudi soir une nouvelle journée de mobilisation la semaine prochaine. Ce sera le 28 mars, donc a priori c'est mardi, si je ne dis pas de bêtises. Les syndicats également, donc il y a la pression de la rue, sur le Conseil constitutionnel. On va voir. Décision dans un mois, dans 3 semaines, rendue par les sages du Conseil constitutionnel. Vous savez peut-être qu'avant d'être promulgué, d'entrer en vigueur, une loi doit être examinée par le Conseil constitutionnel, qui ont été saisis de 3 recours. Principal grief des parlementaires, par exemple de la NUP, l'usage comme véhicule de la réforme des retraites d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que justement, eh bien, ce procédé permettait d'utiliser ensuite un 49.3, puisque l'usage du 49.3, il est encadré, il est limité pour les textes non financiers, donc du coup ils ont pris un texte financier, financement de la sécurité sociale, limité pour les textes financiers à une utilisation par session. Sinon ils n'auraient pas pu utiliser le 49.3. Manœuvre abusive, estiment ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel, qui souligne que l'impact financier du texte sera très faible pour l'année en cours, qui invoque également les différentes dispositions utilisées pour limiter la durée des débats, hein, vous savez, dont l'addition méconnaît selon eux les principes de clarté et de sincérité du travail parlementaire. Là on parle notamment de l'article 47.1 qui a été utilisé pour encadrer et limiter et réduire la durée des débats. Après il y a d'autres trucs qui sont reprochés à ce texte au niveau constitutionnel, mais plus à la marge, quoi, avec ce qu'on appelle les cavaliers législatifs, mais je ne rentre pas dans le détail. Alors, censure ou pas censure ? Ce qu'on appelle la censure, c'est quand le Conseil constitutionnel dit qu'une loi ne peut pas s'appliquer parce qu'en fait elle ne respecte pas la Constitution. En tout cas, qu'on appelle ça pas l'ensemble constitutionnel, parce qu'il y a différentes normes qui s'additionnent, mais le bloc de constitutionnalité, je crois. Alors, censure ou pas censure ? La censure est probable d'une ou de plusieurs dispositions accessoires du texte, hein, Mais rien n'est sûr concernant le cœur de la réforme. Le report, vous savez, de 62 à 64 ans de l'âge de départ légal à la retraite. Donc il pourrait y avoir des petits bouts du texte qui seraient censurés, mais pas l'essentiel. C'est pour ça que il y a quand même beaucoup d'observateurs qui estiment qu'une censure globale du texte est assez peu de chances de passer. À voir. C'est pas nous qui décidons. Ce sont les sages du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui est présidé par Laurent Fabius. Si l'essentiel de la réforme est validé par le Conseil constitutionnel, eh bien il reste un dernier espoir pour les opposants à la réforme. La demande de référendum d'initiative partagée qui a été déposée par 252 parlementaires de gauche, qui veut donc, alors ça c'est intéressant parce que Libé nous explique pourquoi ça risque de ne pas déboucher sur quelque chose. La demande donc, a été faite par des députés de gauche contre... Alors, qu'est-ce qui est demandé exactement ? Voilà. La demande de référendum d'initiative partagée veut soumettre au vote populaire, au référendum, hein, tous les gens en âge de voter en France, le principe que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Donc si ça, ça passe, la réforme, elle saute. Le problème, c'est que ce référendum d'initiative partagé, il est très compliqué à mettre en place, et même il n'a jamais été mis en place depuis qu'il existe. Voilà. Il y a plusieurs étapes à franchir. Le Conseil constitutionnel doit, d'ici un mois, juger de sa conformité, donc de cette demande de référendum, à la Constitution. Premier step. Ensuite, la demande de référendum devra recueillir en 9 mois, sur une plateforme officielle en ligne, les signatures d'au moins un dixième du corps électoral. En France, c'est 4,87 millions de signatures. Okay. Et si ça marche, le texte devra être examiné dans un délai de 6 mois par les deux chambres du Parlement, Assemblée et Sénat. Et s'ils ne le font pas, eh bien, il y aura un référendum. Voilà les étapes, quoi. Donc c'est assez long, c'est assez complexe, explique Libération. La procédure n'est d'ailleurs jamais arrivée à son terme depuis son introduction dans la Constitution en 2008. En 2020, une demande de référendum d'initiative partagée qui s'opposait au projet de privatisation d'Aéroport de Paris s'était achevée sur la collecte de 1,12 million de signatures qui ont été très 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 loin du compte. Voilà. Est-ce que c'est la rue qui peut faire reculer la réforme ? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui peut censurer la réforme ? Est-ce que c'est ce référendum, mais qui est compliqué à organiser, qui peut faire annuler la réforme ? Est-ce que c'est l'exécutif lui-même qui va la retirer pour ramener la concorde, la paix dans le pays ? On ne sait pas. On n'est pas la réponse. Je pense que le feuilleton va durer encore un petit moment. Mikami, pendant ce temps, en Suisse, on travaille jusqu'à 65 ans et 8h30 par jour, et les Français se plaignent encore, est-ce une différence culturelle ? Les Suisses, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Aucun pays n'est comparable par son système économique, son système de protection sociale, ses choix, hein, le choix d'une retraite par répartition qui est fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France. Voilà. Les affaires sont suffisamment réglées au niveau d'un pays pour pas interpeller les exemples étrangers qui sont dans des situations extrêmement différentes, quoi. Donc laissons les Suisses où ils sont, même si j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour les Suisses, mais je suis pas sûr que l'exemple étranger soit toujours pertinent en fait pour analyser la situation d'un pays, quoi. Voilà. Donc peace les Suisses, mais ne donnons pas des leçons, ni nous les Français aux autres d'ailleurs. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait, quoi. Le Figaro est un journal intéressant. Le Figaro est un journal comme l'Opinion qui soutient cette réforme des retraites, qui dit oui mais il n'y a pas d'autre solution en fait, le président Macron il a raison, voilà, il y a de moins en moins de cotisants pour financer la réforme, les retraites par répartition, moins de cotisants, plus de gens partir à la retraite, on n'a pas le choix, il faut travailler plus longtemps. Ça c'est ce que dit le président Macron, c'est ce que dit le Figaro, c'est ce que dit l'Opinion aussi. Donc c'est intéressant de lire le Figaro, qui constate quand même qu'il y a une crise, qui nie pas la crise, voilà, mais qui dit, et c'est un peu la ligne éditoriale du journal, en tout cas exprimée par ses éditorialistes, parce qu'il faut savoir aussi que tous les journalistes d'un journal ne sont pas d'accord entre eux forcément, quoi. Mais vous avez une couleur qui est donnée notamment, un ton qui est donné notamment par les éditorialistes du Figaro, un ton plutôt de droite, un ton plutôt conservateur. Vous n'allez pas être déçu par l'édito. Un éditorial signé Vincent Trémollet de Villers qui dit « Eh, dis donc, le bordel, là, je suis en lit, là. Les poubelles, les manifestations, là. Faut arrêter, hein. » Bon, je vous résume. C'est parti. La grande déglingue. J'adore ce titre. La grande déglingue. Derrière la fumée et les poubelles en flammes, derrière les saccages et les agressions des casseurs, l'extrême gauche, derrière nos policiers valeureux qui, une fois encore, ont connu une violence destructrice, les rues des villes de France laissent un paysage désolé, immondice, cendres, gravats, l'image éloquente d'un champ de ruines politiques et sociales. C'est la grande déglingue. Voilà. Figaro, il regarde le truc, il dit c'est la grande déglingue. Ça, voilà. De Gaulle aurait dit c'est la chienlit, quoi. C'est la chienlit. Une réforme modeste, estime le Figaro, fondée sur un constat démographique implacable, a fait basculer la France dans une crise existentielle où tout vacille. Donc pour le Figaro, il fallait faire cette réforme. Le gouvernement, l'Assemblée, la rue, cette disproportion ne peut être attribuée à la seule impopularité du président, aux maladresses de ses ministres. Le Figaro dit cette crise, elle n'a pas été provoquée seulement par Macron et ses ministres. Hein. Pas seulement explicable par l'esprit réfractaire des Gaulois, à la rage révolutionnaire de la France insoumise. Non, pour le Figaro, c'est un malaise beaucoup plus profond qui remonte à la surface, celui d'un pays hanté par son déclin économique, sa fragmentation culturelle et son vieillissement. Bon, ça, c'est l'analyse traditionnelle du Figaro sur les maux de la France. Voilà quoi. Alors, sachez que c'est un éditorial, donc c'est l'avis du Figaro là-dessus. Après, vous pouvez le trouver pertinent ou pas. Voilà. Mais c'est intéressant, en tout cas, d'avoir des regards différents, je trouve. Et on va finir par un dernier article. Et merci à la Croix de... Mais merci pour ce gentil raid, merci FC Geopolitics, merci pour ce raid, c'est adorable. Très joli nom de chaîne. On est en train de finir la petite revue de presse du matin, essentiellement sur la réforme des retraites et ce qui va se passer maintenant. J'étais en train de remercier la Croix de consacrer sa une à autre chose, une info qui me semble très importante. Et là aussi, et pour d'autres raisons, on craint des tensions, des manifestations peut-être violentes dans les prochains jours et notamment ce week-end. On me dit que FC Géopolitique, c'est une chaîne super sympa. Et ben vous savez quoi ? On va aller la voir. Merci du raid encore. J'aime bien me promener dans Twitch, qui est quand même un bel univers. Alors, une petite bio. Où êtes-vous ? Ici. Hop. Est-ce que je suis au moins ? Non, je suis déjà. La chaîne qui mixe sport, géopolitique et gaming. Mais oui, mais on m'avait déjà dit du bien de cette chaîne. Ok, allons follow cette chaîne. FC Geopolitics. Voilà. Moi, je suis déjà, c'est fait. Merci en tout cas pour le raid, c'est super sympa. Touk. Alors, la bataille de l'eau. La bataille de l'eau. Oui, de Rominou, on en a parlé du lycéen, hélas, décédé à Lille. On en a parlé tout à l'heure, hélas. La bataille de l'eau dans les Deux-Sèvres. C'est hyper intéressant. Le conflit sur les méga-bassines, vous avez entendu parler de ça ? Ces cuvettes artificielles alimentées par un usage intensif des nappes phréatiques, par les agriculteurs, hein, va connaître un nouvel épisode tendu samedi. Si demain vous voyez... Putain, je vous ai pas mis la scène. Merci. Si demain vous voyez des scènes de violence ou de manifestation dans les Deux-Sèvres, vous penserez à ce stream. Et vous pourrez raconter autour de vous, expliquer. On vous dira, mais qu'est-ce qu'il est brillant ? Mais comment il sait tout ça ? Mais... incroyable, mais comment fais-tu pour avoir toutes les infos, pour décrypter ce qui est en train de se passer là, c'est fou ce recul que tu as, cette sagesse quelque part. Et là tu pourras dire, mais oui, je suis brillant, je suis beau, parce que je regarde le stream de Samuel Etienne. Formez-la. Aux sources du conflit de l'eau dans les Deux-Sèvres, ce qui va vous permettre de frimer un petit peu demain, une nouvelle manif d'ampleur contre les retenues d'eau utilisées pour l'irrigation est organisée dans les Deux-Sèvres en cette fin de semaine, et notamment demain. La question du partage de l'eau, de plus en plus cruciale avec le réchauffement climatique, ça vous le savez, mobilise fortement les milieux écologistes. Dans un contexte déjà tendu, les pouvoirs publics s'inquiètent d'éventuels débordements. Il y a beaucoup de policiers qui sont mobilisés là dans les Deux-Sèvres. Des milliers d'opposants sont attendus du 24 au 26 mars, donc 24 c'est à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un me disait dans le chat qu'il était sur place tout à l'heure. Voilà. Et qu'effectivement, ils constataient que tout était un petit peu bouclé au niveau des routes. Je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Les agriculteurs utilisant l'irrigation craignent de nouvelles dégradations de leurs installations. Donc, c'est un peu de stress aussi de leur côté. Ces tensions autour des bassines montrent les difficultés à définir un avenir commun pour le partage de l'eau. De toute façon, on est dans un pays où on a du mal quand même à se projeter dans un avenir commun. Bon, enfin, c'est un petit peu... Bon, la France, on a un peu la passion du débat, quoi. Sinon de l'opposition. C'est parti. Depuis l'autorisation en 2018 d'un projet de construction de 16 retenues d'eau sur le département des Deux-Sèvres, ces piscines artificielles géantes sont régulièrement prises pour cibles par les militants proches des collectifs écologistes Bassines Non Merci, les Soulèvements de la Terre ou encore de la Confédération Paysanne. Les 29 et 30 octobre dernier, l'irruption de plusieurs milliers d'opposants aux méga-bassines sur le chantier de la retenue de Sainte-Soline avait donné, vous vous souvenez sûrement des images, non ? Les violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, donc c'était à Sainte-Soline, de nouveaux sabotages pourraient être perpétrés du 24, ça commence aujourd'hui, au 26 mars, lors d'un week-end de manif-action sur plusieurs communes. Malgré l'interdiction de manifester édictée par la préfecture, la mobilisation se veut historique par son ampleur. Plus de 10 000 personnes sont prêtes, a priori, à, je cite, démanteler les armes de destruction massive que sont les méga-bassines et devraient converger dans la région, qui réclame le collectif un moratoire sur la construction de ces bassines, qu'on arrête donc de les construire. Ça c'est l'annonce des tensions, l'annonce de la manif. Pourquoi ? Comment ? Comme le dit Rodil, c'est quoi la raison pour être contre ces bassines ? On va essayer de comprendre un petit peu. Le dossier de la Croix, si ça vous intéresse ce matin, est vraiment bien foutu. N'hésitez pas à aller acheter la Croix dans un kiosque ou de télécharger sur Internet. Vous téléchargez l'appli La Croix ou Libération ou le Figaro ou ce que vous voulez, les Échos. Et en deux clics sur votre tablette, vous téléchargez un journal pour 1€, 1,50€, 2€, 3€. Ça dépend un petit peu du journal, c'est super simple, quoi. Donc, pour remonter à la source de ces tensions extrêmes, il faut s'intéresser au fonctionnement de ces équipements qui sont destinés, ces méga-bassines, à quoi ? À l'irrigation des cultures, avec un volume de stockage qui peut atteindre jusqu'à l'équivalent de 200 piscines olympiques. Vous avez des bassines qui peuvent stocker jusqu'à 200 piscines olympiques de flotte, quoi. Le principe relève, à en croire les partisans, les porteurs de ce projet, du bon sens. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On prélève l'eau directement dans la nappe phréatique, okay, dans le sol, en hiver, quand il y en a beaucoup, hein, de l'eau, pour pouvoir l'utiliser en été pour sécuriser les récoltes. Bah, c'est cool. Il y a beaucoup d'eau d'hiver dans la nappe phréatique, on en prend, on met dans les bassines, on l'utilise l'été. Bon, ça, les partisans disent que ça le fait. Sauf que non, disent les opposants, bien sûr, sauf que les bassines seraient en réalité un non-sens hydrologique dans un contexte de changement climatique, voilà, où les recharges hivernales des nappes phréatiques sont devenues impossibles. Hein. En fait, voilà, normalement, l'hiver, avant, les nappes phréatiques faisaient le plein, et c'est plus le cas, vous le savez, on est en déficit hydrique en France, on est en sécheresse, en fait, quasiment toute l'année, quoi. Voilà. Donc du coup, ben, les opposants disent, ben non, ça ne marche plus votre principe. Merci 40 robots. Merci beaucoup pour le Prime. 17 000 abonnements. Mick Camille, j'avais pas vu, merci pour le troisième mois. Donc la parole, par exemple, à un député européen écologiste s'appelle Benoît Biteau. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, les méga-bassines reflètent en fait une logique de privatisation d'un bien commun, c'est l'eau, qui permettra à une minorité du monde agricole de contourner les arrêtés préfectoraux de restriction d'usage de l'eau en période de sécheresse. Bah oui, l'été, quand il n'y a plus de flotte, eux, ils auront les méga-bassines, donc ils contournent et ils ont l'eau. Le tout au profit d'une, estime ce député, le tout au profit d'une poignée d'exploitations céréalières qui destinent leur maïs à l'exportation, tant qu'à faire, alors même que ces ouvrages sont financés à hauteur de 70% par les fonds publics. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors après, il y a des agriculteurs qui disent, ben non, c'est pas vrai. Il y a un jeune éleveur, par exemple, qui s'appelle Samuel Baudouin, très joli prénom, d'ailleurs, Samuel Baudouin, qui ne se reconnaît pas dans cette présentation d'énormes céréaliers. Lui, c'est un jeune éleveur. Lui, il dit, l'eau de la bassine ne nous sert qu'à produire le fourrage nécessaire à l'alimentation de nos 400 chèvres. Grâce à cette eau, on n'est plus obligé d'acheter des compléments alimentaires qui sont venus de l'autre bout de la planète. Donc, il n'est pas loin de dire qu'en fait, tout ça est super écologique. Voilà. En 2018, un protocole d'accord a été signé dans la région, au terme d'un processus de concertation sous l'égide de la préfecture. Qu'est-ce que disait cet accord ? Les agriculteurs bénéficiaires de ces retenues d'eau avaient pris des engagements forts sur l'évolution de leurs pratiques, pour consommer moins d'eau notamment, et même une transition vers l'agriculture biologique. Sauf que les écologistes disent que les agriculteurs, les irrigants, n'ont pas respecté ce protocole d'accord et continuent à les pompages, y compris lorsque les indicateurs du niveau de la nappe sont au plus bas, parce que normalement c'est encadré, Et manifestement, cet encadrement qui manifestement dit qu'on n'a pas le droit de pomper dans la nappe en dessous d'un certain niveau, eh bien, ce ne serait pas respecté par les agriculteurs. Conclusion d'Antoine Oberdorf, qui fait un très bon dossier là-dessus sur la Croix. Aujourd'hui, seule une intervention des pouvoirs publics pour renégocier les règles de partage de l'eau paraît en mesure de signer la fin de cette guérilla rurale qui s'est installée dans les Deux-Sèvres. Beaucoup redoutent un drame comparable à celui de Sivens, où en 2014, je me rappelle de ça, c'était dramatique, le jeune Rémi Fraisse, militant écologiste de 21 ans, avait trouvé la mort lors d'une manifestation contre un projet de barrage. Voilà. C'est intéressant parce que la conclusion de l'article, c'est quoi ? Vous avez deux camps. Agriculteurs d'un côté, certains agriculteurs, militants écologistes de l'autre, qui semblent irréductibles, qui sont en colère. Vous avez des manifestants très nombreux qui sont attendus là. On craint des violences et les agriculteurs craignent que leurs installations soient, cassées quoi. Donc de la tension, sinon de la colère, des oppositions, peut-être des violences à venir. La conclusion de l'article, c'est qui peut essayer de ramener la concorde saccagée. Merci. La concorde, la paix dans les Deux-Sèvres, voilà, c'est l'État. C'est l'État. Donc c'est vrai qu'on dit, on crie souvent haro sur l'État, le gouvernement, la préfecture, etc. Mais à un moment, c'est vrai qu'il faut un arbitre, quelqu'un qui édicte des règles, qui se met au milieu d'un conflit, pour que ce conflit ne dérape pas, quoi. Voilà. Donc là, le souci ne vient pas tellement du gouvernement. Hein. On a tendance en France à dire que tous nos soucis viennent du gouvernement. On voit bien que le souci vient plutôt de l'opposition entre deux logiques qui ne sont pas les mêmes, quoi. Rentabilité agricole d'un côté et protection de l'environnement de l'autre, quoi. Voilà. Donc la Croix dit maintenant c'est au préfet, c'est à l'État d'intervenir pour essayer de trouver un accord, quoi. Voilà. Voilà. Super arbitre 35 dit oui, sauf que l'arbitre a perdu toute légitimité. Oui, mais alors s'il n'y a plus d'arbitre, c'est foutu, hein. On est tous foutus. D'ailleurs, ce serait la conclusion de ce stream, parce que je voulais finir sur une note positive. Voilà. Et ce sera la conclusion de ce stream, on est foutus. On est tous foutus. Moi, je pense que ça y est, c'est foutu, là. Là, je pense qu'on a atteint un point de non-retour. Oui, c'est foutu. C'est foutu. Je pense que... Voilà. Je pense que l'humanité va s'écrouler. Mais pas tout de suite. Dans quelques milliers d'années. Donc, on va pouvoir faire quelques streams encore. Comment ça, horoscope ? Ah, vous êtes des coquins, c'est vrai qu'on a oublié l'horoscope. Si, allez, un petit horoscope. Alors, comme vous êtes des milliards, au moins, à m'avoir rappelé que j'avais oublié le jeu de l'horoscope, je vais vous poser une question d'actualité. Écoutez bien. Le premier, la première qui répond justement, correctement à ma question d'actualité, et qui, dans la même réponse, me donne son signe astrologique, parce que si j'ai pas ton signe, ça marche pas. Eh bien, je te lis ton signe astrologique. Incroyable. Incroyable. On n'y croit pas du tout, mais ça nous fait marrer. Question. Question. Vous êtes prêts ? Il me faut la bonne réponse, la bonne orthographe et votre signe astrologique. Qui est la très brillante journaliste qui vient ce soir dans l'hebdo Étienne à partir de 20h ? C'est réponse et signe. C'est parti. C'est pas Stéphanie de Monaco. Non, perdu. Perdu. C'est pas Elon Musk, perdu. C'est les poissons qui ont gagné avec Salomé Saké, effectivement. Bravo, Slide Red, tu as gagné, donc c'est poissons. Je rebranche ma tablette que j'avais déjà débranchée. Voilà, je voulais déjà me barrer. Allez, me la couler douce. Je vais sûrement trouver du boulot à faire, comme d'habitude. Quelle époque on vit. Je retourne sur Le Parisien. Et voici l'horoscope du Parisien. Donc on a dit quoi ? On a dit quoi ? On a dit poisson. Tous les poissons pouvaient dire merci à Slide Red parce que les poissons, vous gagnez pas souvent ce concours de rapidité. Je voudrais pas dire que vous êtes un petit peu lent les poissons, mais comment dire ? Vous n'êtes pas rapide, quoi. Vous êtes plus Nemo que... qu'est-ce qui est très rapide que... Le ton, c'est très rapide, le ton. Ouais. Plus Nemo que ton, quoi. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, vous n'êtes pas rapide, quoi. Mais on vous aime. On vous aime quand même. Poisson, c'est parti. Tout, c'est où les poissons ? Ils ne gagnent jamais les poissons. Cœur. Les affaires de cœur prennent une place de choix. super précis, super passionnant. Hein. Merci l'horoscope. Les affaires de cœur prennent une place de choix. Ça veut rien dire, ça veut tout dire. Merci les gars. Réussite. On remarquera votre sérieux et votre rigueur. Eh, les poissons, vous n'êtes pas rapides, vous êtes rigoureux. C'est bien ça. Vous devez accomplir plus de tâches requérant plus d'énergie. Ok. Tuez-vous à la tâche. Tuez-vous à la tâche. Oh, une place d'anchois. Bravo. Oh, je vous lis. Les histoires de cœur prendront une place d'anchois, disaient certains dans le chat. Oh, j'en frémis. J'en frémis de bonheur et de plaisir. Vous êtes fort, hein. Donc, tuez-vous à la tâche, donc, dit l'horoscope, les poissons. Et on finit par la forme. Attention, le suspense est insupportable. Forme. Tout va bien. Bravo. Voilà. Et là, je pense à quelqu'un qui vient sur le stream pour la première fois. Il dit, ah, il paraît que c'est pas mal ce qu'il fait le papy, là, sur les journaux, là. Il lit Le Monde, il tout ça et tout. Et on arrive pile sur l'horoscope poisson, quoi. Les amis, merci, on se régale, ça n'est pas fini, on est fou, on est jeune, on aime le fun. C'est une vieille pub, vous pouvez pas connaître. On est fou, on aime le fun. Fun, c'est un parfum. Je t'aime tant. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Fun déodorant. Attendez, je vous montre cette vieille pub de 1927. Oh, je l'ai retrouvée. Je l'ai, je crois. Oh, vous connaissez pas les jeunes. On aime le fun. Fun, un parfum troublant. Tintintin. Vous êtes prêts? Allez, vas-y.
Quand on est jeune, on aime le fun.
Un parfum différent. Fun, c'est déodorant. C'est un parfum troublant. My baby, je t'aime tant.
Qu'on aime. Alors pas de, hein, pas de la pub, ça. Meilleure publicité ever. Un déodorant qui s'appelait Fun. Je pense que c'était au début des années 80. Et j'adorais cette pub. J'adorais cette pub qui était tellement positive. On n'était pas sur les manifs, là, les trucs. Tous ces jeunes qui ne voulaient pas bosser, là. Non, on était sur le dynamisme. Hein, on était sur le sang bon, monsieur et madame. On était sur le... Voilà. Hein, une jeunesse qui se douchait, une jeunesse qui prenait des douches et qui mettait du déodorant. J'adorais cette pub. Écoutez bien les paroles, c'est une dinguerie.
Quand on est jeune, on aime le fun.
Un parfum différent, fun, c'est déodorant. C'est un parfum troublant. My baby, je t'aime tant. Pour toutes les filles qui aiment le fun.
Fun à tous les qu'on aime.
Mais oui, c'était pour toutes les filles qui aimaient le fun, voilà. Ah, c'était des belles années, les années 80. Ah, c'est pas comme les 2023, là, de dinguerie, là. Voilà, vous voyez, voilà pourquoi je vais être invité mercredi soir à l'Assemblée nationale pour parler de la jeunesse. Parce que justement, je la connais, la jeunesse. Hein, notamment la jeunesse des années 80. Voilà, bon, les trêves de bêtises, on se retrouve ce soir, puisque double stream, puisqu'on est fou. On aime le fun, on est jeune, c'est comme ça que je suis parti sur la pub comme un débile. Je vous montre une dernière fois l'affiche de Tonight, espèce de line-up de dingos, de déglingos. À gauche, bon, bah c'est le beau gosse, hein, c'est le beau gosse, magnifique. À côté, c'est le professeur Jean Massier, il est formidable, il est là ce soir. Rivenzi, avec une surprise ce soir, vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Salomé Seke, magnifique. Sois jeune et tais-toi. Son livre vient de sortir. Elle est avec nous ce soir. Et Rémi Buisine, s'il n'est pas sur les manifs. Allez, let's go. On finit par un petit raid. On profite du fait que vous soyez super nombreux et super sympas pour systématiquement ici, en fin de stream, faire un raid vers un autre stream, vers un streamer, une streameuse qui a un chouette contenu mais qui n'a pas encore trop de viewers, qui n'a pas encore une trop grosse communauté. Pourquoi? Eh bien, pour lui donner un petit coup de main. Pourquoi? Parce que c'est fou, c'est fun, on aime le fun. Tout simplement, en fait. Donc, c'est parti, proposition. Dans le chat, je vous mets 2 minutes de musique, le temps de trouver la destination. 2 minutes de musique.